Bonne matinée à l'écoute de Radio Courtoisie, 7h30.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, le programme du jour.
Dans un instant, rediffusion du Libre Journal de Serge de Beketch d'hier soir. À 10h45, le livre du jour Tan Brassier, Trésors en poche. À midi, rediffusion du Libre Journal de Lumière 101 de dimanche dernier. Cet après-midi à 14h, rediffusion du livre du jour Tan Brassier, Trésors en poche de ce matin. À 16h, un document Radio Courtoisie, il s'agira d'un Libre Journal de l'Aventure du 2 octobre 1998. Ce soir à 18h, retour au direct avec le Libre Journal d'Olivier Pichon. Et à 21h, les Jeudis de l'Opéra. Nous vous proposons encore 3 œuvres lyriques cette semaine. Vous pouvez encore voter pour l'une d'entre elles, je vous les rappelle brièvement. Tout d'abord, nous mettons en lice Le Barbier de Séville de Rossini. Un mélodrame en 2 actes, ici avec Thomas Allen, Agnès Balazza et Francisco Areza, sous la direction de Neville Mariner, un enregistrement effectué en 1982. Deuxième proposition, La Finta Giardiniera de Mozart, un drame en 3 actes, sous la direction de Nicolas Arnoncourt, enregistré en 1992 avec Thomas Moser, Edita Gruberova et Don Upshaw. Enfin, troisième proposition, Roméo et Juliette d'Hector Berlioz, une symphonie dramatique. Ici interprétée par Patricia Kern, Robert Thier et John Shirley Quirk, enregistrée à Londres en 1968 et dirigée par Sir Colin Davis. Je répète ces trois propositions, Le Barbier de Séville de Rossini, La Finta Giardiniera de Mozart et Roméo et Juliette d'Hector Berlioz. N'hésitez pas à nous appeler. Je vous rappelle notre numéro de téléphone pour les Jeudis de l'Opéra, le 01 46 51 00 85. Je vous souhaite une très bonne matinée. Tout de suite, la première partie du Libre Journal de Serge de Beketch d'hier soir.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 29 novembre 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas Victoria qui a un gros enrouement. C'est un problème d'automobile, apparemment, et donc c'est la voix de Franck que vous avez entendue. C'est pas la voix de Victoria enrhumée. Ce soir, je reçois dans le Libre Journal Monsieur l'abbé Cellier, bonsoir monsieur l'abbé.
Bonsoir.
Qui est venu, alors il est venu avec, je vous crois, 245 livres. Et il va vous dire ce qu'il faut acheter pour vos enfants pour Noël. Que les livres que le Père Noël va apporter à vos enfants dans la cheminée. Donc des livres ininflammables. Mais la surprise générale, c'est quand même que l'essentiel, c'est des livres des éditions Clovis.
C'est... Non, c'est pas l'essentiel.
Non, c'est pas vrai. Non, avant.
C'est une partie.
Vous voyez, moi, j'essayais d'être désagréable, mais alors c'est raté. Ensuite, vous avez vu comme il réagit vite, hein, il ne se laisse pas faire. Hein. Ensuite, je recevrai Monsieur Philippe Machin-Chouette, on m'a dit, du cœur mongeois. Parce que j'attendais Jacques Arnoul, mais on me dit, non, c'est pas Jacques Arnoul qui va venir, c'est Philippe Machin-Chouette. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un Philippe Machin-Chouette au cœur mongeois. C'est peut-être pas son nom, d'ailleurs, c'est peut-être un pseudonyme qu'il a pris pour parler à la radio. Et ensuite, nous causerons avec le docteur Plantet, d'hygiène alimentaire, on peut dire. C'est comme ça que vous diriez, vous?
D'hygiène alimentaire et d'épidémiologie gravissime et de mensonges scientifiques.
Voilà, c'est donc un programme intéressant. Et, mais quand même alimentaire.
Alimentaire, voilà. Cher
Watson, bien entendu.
Indeed.
Voilà. Alors, en ce moment même, débute une manifestation contre l'avortement, contre le projet de loi Aubry infanticide, mobilisation pour la vie à Paris, esplanade des Invalides, mercredi 29 novembre à 18h, c'est-à-dire en ce moment, esplanade des Invalides. Donc vous pouvez y aller, ça va durer un moment je pense. Parmi les puissances organisatrices, l'association Chrétienté Solidarité et la Griffe, que je suis vice-président de, encore pour l'instant, ça va peut-être pas durer mais c'est toujours le cas, et dont le président est Bernard Anthony. Également le docteur Villette de la Confédération Nationale des Familles Chrétiennes, le docteur Dor que vous connaissez, qui vient souvent dans cette émission, c'est SOS Tout Petit, Françoise Cohen qui est professeur de mathématiques, qui est militante pro-vie, Stéphane de Coët-Parquet de l'association, enfin c'est pas une association, c'est le Pactum.
Pactum.
Pactum, vous connaissez, c'est bien,
oui.
C'est bien Pactum. Je vais le réinviter un jour pour qu'il nous explique comment ça marche, parce que je l'avais invité au début. Et puis qui d'autre encore pourrais-je vous dire? Tiens, il y a Roger Hollandre qui sera là, le président du Cercle National des Combattants, pas forcément directement concerné par la question, mais pourquoi pas après tout. Plein de gens sympathiques et intéressants. Voilà, Martine Lehideux, Jean-Pierre Maugendre, qui est de Renaissance catholique. Je ne sais pas s'il est secrétaire général, président, moi, tous ces titres-là. Je me souviens de mon titre comme vice-président de la Griffe, parce que c'est le seul titre que j'ai eu dans toute ma vie, mais les autres, je ne sais pas. Voilà, donc si vous voulez aller les rejoindre, il y a des gens de présents aussi qui sont là. Enfin, il y a plein de monde sympathique. C'est en ce moment à l'esplanade des Invalides, et en plus, comme ça, vous vous épargnerez le déplaisir d'entendre ma voix pendant 3 heures, parce que l'émission va quand même durer 3 heures. Il est d'ailleurs très intéressant de voir ce qui se passe en ce moment autour de cette question de l'avortement. Parce que d'une part, vous avez vu qu'en France, il y a un projet d'allongement donc du délai d'avortabilité qui va passer à 12 semaines. Oui, on me dit en ce moment, bien sûr, la manifestation, c'est en ce moment si vous nous écoutez en direct. Si vous nous écoutez demain, c'est-à-dire pour vous, c'est aujourd'hui. Mais pour moi, c'est demain. Alors, c'était la manifestation, à ce moment-là, c'était hier. Ça y est, j'ai éclairci la question, Non, la manifestation, c'est mercredi soir à 18h. Et je disais, il y a donc des choses intéressantes qui se passent autour de l'avortement. On va passer à 12 semaines, le délai. Aux Pays-Bas, il est de 24 semaines. 24 semaines. C'est-à-dire que si on sort l'enfant et qu'on le met dans une couveuse, il est vivant. Voilà. Donc c'est réellement un assassinat. Alors
c'est
je dis, l'avortement est un assassinat. Les avorteurs sont des assassins et les organisations pro-avortement sont des mafias d'assassins. Voilà, comme ça les choses sont dites, c'est bien clair. Et alors ce qui est très drôle, c'est quand on dit ça, on est antisémite. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un papier dans Le Monde de Jean-Michel Bezat et Christiane Chambaud qui dit la chose suivante. Alors, les pro-vie sont de retour. Pour une fois, c'est pas les commandos anti-avortement, c'est les pro-vie. Le projet de loi sur l'IVG est une trop belle occasion de sortir de leur confidentialité pour qu'ils ne s'en saisissent pas. Déjà, c'est nous, on fait de la pub. On est contre. C'est pas pour sauver des enfants qu'on est. C'est pour sortir de notre confidentialité. Les plus tièdes adressent des menaces de représailles électorales aux députés. Déjà, c'est mal, hein. On dit aux députés, si vous votez pour l'avortement comme on est contre, on votera pas pour vous. C'est du chantage, ça s'appelle du chantage. C'est-à-dire ne pas voter pour un député qu'on considère comme complice des assassins, c'est du chantage. Les plus virulents, des lettres d'injures, parfois à fort relent antisémite, comme le professeur Israël Nissan, auteur d'un récent rapport sur l'IVG en France, en a reçu ces derniers mois. Alors ça, c'est le début du papier. Et à la fin du papier, on lit « Reste l'Église catholique, elle ne désarme pas ». Alors ça veut dire qu'il faut être bien clair. Si vous êtes contre l'avortement, et que vous écrivez à un avorteur ou à un défenseur de l'avortement, et qu'il se trouve que ce type est juif, vous êtes forcément antisémite. C'est pas parce que vous êtes contre l'avortement que vous écrivez à ce type. C'est parce que vous êtes antisémite que vous êtes contre l'avortement, et que lui, en tant que juif, ou pas en tant que juif, est pour. Donc si vous êtes contre l'avortement, vous êtes contre lui, et par conséquent, vous êtes antisémite. Mais si vous êtes pour l'avortement et que vous dénoncez l'Église comme engagée dans le combat contre l'avortement, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être traité d'antichrétien. Ça n'a rien à voir, car c'est pas l'Église que vous attaquez. C'est les gens qui sont contre l'avortement. Vous voyez, ça c'est du pile-poule, ça s'appelle. Oui. C'est un petit peu délicat. Il faut lire longtemps, il faut s'habituer, il faut bien étudier la question. Mais au bout d'un moment, on finit par s'y faire. C'est assez rigolo. Vous voyez, en fait, c'est fondé sur des principes assez simples. C'est-à-dire, le principe de base, c'est quand même donne-moi ta main, je te donnerai l'heure. Hein? En gros, tout découle de ça. Voilà. Alors, le papier est tout à fait intéressant de Mme Christiane Chambaud et de M. Jean-Michel Bezat. Il continue. Le mouvement en droit de naître qui se sert des symboles comme d'une arme. C'est effrayant. Ils osent se servir des symboles comme d'une arme. Hein, c'est pas les staliniens qui feraient ça, par exemple. Alors, a distribué à ses adhérents des cartes pétitions tachées de sang, entre parenthèses, fictifs, où l'on peut... Bien sûr, ils n'ont pas égorgé les enfants pour tremper les cartes dans le sang. Non, c'est fictif.
Ils auraient pu prendre le sang des vaches qu'on est en train d'abattre.
Eh ben oui, du sang de cochon, ça aurait bien convenu. Ah ben voilà, monsieur Philippe Machin-Chouette. Entrez, Philippe Machin-Chouette, je vous en prie. C'est bien ce que vous pensiez. En français, ça se dit Machin-Chouette, et en russe, ça se dit Dounaïev.
Voilà, c'est une translittération.
C'est Philippe Dounaïev qui fait son entrée au nom du cœur, mon joueur. Mon cher Philippe, je ne t'embrasse pas, mais le cœur y est.
Merci, Pierre.
Et en plus, quand on s'embrasse, on a nos moustaches qui font... comment ça s'appelle comment
Scratch-crasse.
Oui, le velcro. Voilà. Velcro. Donc, je continue ce truc très intéressant. Donc... Christiane Chambaud dit, ou Jean-Michel Bezat, on ne sait pas l'un des deux, ils sont mis à deux pour écrire ça. Et le mouvement droit de l'homme doit naître qui se sert des symboles comme d'une arme, ce qui est évidemment très mal, a distribué à ses adhérents des cartes pétitions tachées de sang, fictifs quand même, où l'on peut lire « garder les mains propres », ce qui est intolérable. Enfin, comment peut-on inciter les gens à garder les mains propres? Il invite ses signataires à les envoyer aux députés, en leur demandant de voter contre le projet. Au nom, dit-il, des 225 000 enfants tombant tous les ans sous les coups des avorteurs, qu'il qualifie encore de bourreaux ou de génocidaires. C'est pas mal, ça. Les élus ont reçu mardi une savonnette. Alors, écoutez bien la suite. Vous allez voir la force extraordinaire du politiquement correct. Les élus ont reçu mardi une savonnette bébé cadom, utile pour laver leurs mains souillées. Mais pas leur conscience. Ça, c'est entre guillemets, c'est l'association qui dit ça. Colgate Palmolive, détenteur de la marque, a aussitôt fait savoir aux parlementaires qu'il n'était en rien associé à cette campagne. Le mec se dit, putain, on a un savon qui s'appelle bébé cadom, on est contre l'avortement. Non, on est absolument pour l'avortement, on est le maximum de... Et on le fait savoir aux députés. Bébé cadom, Colgate Palmolive est pour l'avortement, puisqu'ils ont fait savoir aux députés qu'ils n'étaient pas contre, qu'ils n'étaient pour rien. Alors on leur achète quelques milliers de savonnettes, et ces cochons-là, au lieu de dire merci, bonne affaire, ils disent non, pour rien. On aurait préféré qu'ils achètent des savons de Marseille, mais les savons de Marseille, c'est pas bébé cadom. Hein?
Et dans la composition du savon, faut pas oublier qu'il peut éventuellement avoir des résidus
de
crématorium d'abord.
Ben, absolument, ça on sait bien que ce qu'on fait avec le... Comment on fait le savon, ça fait longtemps qu'on le sait. Donc, alors, droit de naître a déposé mercredi à l'Assemblée nationale 270 000 cartes d'électeurs avortés, ceux qui ne pourront pas voter en 2018. Je veux dire que quand l'association Le Droit de Naître s'est créée, j'étais un petit peu réticent parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'associations anti-avortement et que celle-là était superflue, surtout qu'elle utilisait le système de travail-famille-propriété qui consiste à demander aux gens de financer des envois de cartes postales, qui demandent aux gens de l'argent pour financer de la, des envois de cartes postales qui serviront à payer des envois de cartes postales à des gens qui demanderont. Donc on, au bout d'un moment, on se dit, mais à quoi ça sert? Bon, là, ça sert à envoyer des cartes postales, c'est clair. Mais là, ces idées-là, elles sont bonnes quand même. Donc les cartes d'électeur avortées, c'est bien. Alors Christine Boutin, députée APFUDEF, APUDEF,
apparentée
ou à part entière peut-être,
APUDEF, des Yvelines est repartie en campagne. Présidente de l'Alliance pour les droits de la vie, elle a lancé en octobre une opération de sensibilisation en distribuant 1 million, non pas de savonnettes mais de dépliants, où elle dit ces quatre vérités. L'avortement est souvent la conséquence de pression subie par une femme et s'accompagne de lourdes souffrances. Tout ça est entre guillemets dans le monde. Hein. On sent qu'on désapprouve quand même. Hein. Mmh. On ose dire que ça, l'avortement s'accompagne de lourdes souffrances, alors que c'est forcément une immense partie de rigolade.
C'est clair. Hein.
C'est pour tout le monde.
Et alors que, ouvrez les guillemets, beaucoup de couples aimeraient faire le choix de la vie, fermez les guillemets, si la société les y aidait. Désormais, elle justifie moins son rejet viscéral de l'avortement par des arguments moraux ou religieux que par le souci de préserver la santé des femmes et de respecter leur choix. Un habillage verbal, c'est fabuleux. Le Monde, je vous rappelle, c'est quand même le canard qui est censé incarner
La respectabilité.
La respectabilité, mais surtout la neutralité laïque. Ouais. Hein. On ne s'engage pas, on apporte l'information. Donc, quand Christine Boutin parle, c'est de l'habillage verbal qui, selon les députés socialistes, permet de rendre sa position présentable dans une société qui a fait de l'IVG un droit. Je ne sais pas quelle société, mais bon. Probablement la société des députés socialistes. Oui. Madame Boutin ne met d'ailleurs plus en avant l'abrogation de la loi Veil, mais la nécessité de favoriser l'aide aux femmes enceintes en difficulté. Ce qu'elle a toujours fait, ce qu'on a toujours fait tous d'ailleurs, comme le précise l'intitulé de la proposition de loi qu'elle a déposée en mai. L'extrême droite, tiens la voilà, on croyait qu'elle était morte, la voilà qui revient. L'extrême droite, elle-même hésite à réclamer une telle abrogation, ce qui est faux d'ailleurs, parce que moi je la réclame vigoureusement, c'est vrai que je ne suis pas d'extrême droite,
ouais, c'est clair.
Qui ne figure pas expressément dans le programme du Mouvement National Républicain, ils en parlent, disons. C'est les seuls cas où ils parlent du MNR, c'est là. Son président Bruno Maigret dénonce un texte qui va à contre-courant des valeurs de notre civilisation, donc c'est bien ça, il dénonce l'avortement. Mais il le dénonce, vous le dénoncez
pas. Oui,
qu'est-ce qu'elle raconte?
Je sais pas. C'est...
Quant au président du Front National, Jean-Marie Le Pen, il est sorti de son silence mardi pour dénoncer une réforme contraire à toutes les règles de la morale commune, tout en laissant à Bernard Anthony, le président de Chrétienté et Solidarité, le soin de lancer le comité du 29 novembre, qui ne voit dans l'avortement qu'un génocide français. Hein, autrement dit, si Le Pen avait appelé contre l'avortement, on dirait de quoi il se mêle, et comme il appelle pas directement à constituer le comité, on dit il laisse Bernard Anthony. Mais on vous voit venir, Madame Chambaud, vous nous prenez pour des pélicans ou quoi? Vous croyez qu'on sait pas lire? C'est fabuleux ça. Alors, l'appel de ce comité a été notamment signé par Xavier Dore. Alors, écoutez bien, président de SOS Tout Petit, qui s'est illustré au cours des années 90 à la tête de
Commando.
Commando anti-IVG. Le voilà
commando,
le commando.
Pas pour l'aventure.
Hein, alors, je vais vous dire. Comme chef de commando, le docteur Dore. Moi, je l'aime bien, mais il est pas terrible. Hein.
On met les parachutes et l'arme sur le ventral.
Comme tireur d'élite, peut-être. Voilà. Hein. Sniper. Le MNR s'associera à travers l'association La Ligue pour la Vie, qui compte aussi des frontistes, à la manifestation que le comité du 29 novembre organise, etc. Place des Invalides, j'en ai parlé tout à l'heure. Non. Le MNR sera encore présent. Ils en parlent beaucoup, du MNR. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça revient le coup. Hein. À travers l'association Promouvoir, présidée par le maigrettiste André Bonnet, à la marche nationale, organisée le 2 décembre à Paris par Choisir la Vie, les Croisés du Sacré-Cœur et les Pèlerins de la Vie. Alors à ce propos d'ailleurs, c'est le 2 décembre, on n'est pas nombreux, mais qu'est-ce qu'on fait comme manifestation? Hein, le 2 décembre, il y a au moins 3 manifestations différentes contre l'avortement, pour la vie, voilà. À 14h, il y a la marche pour la vie au départ de la place Joffre à Paris à l'appel de l'association Choisir la Vie. À 17h, il y a le rosaire pour la vie à Notre-Dame de Paris à l'appel de la Coordination Générale des Rosaires pour la Vie en union avec les groupes de toutes les cathédrales de France et du monde jusqu'à celle de Montréal au Québec. Et à 21h, il y a une nuit de prière à l'église Saint-Sulpice à Paris à l'appel de l'association Pour l'Unité. C'est formidable, on peut pas dire qu'on se laisse faire. Hein. Nous, au moins, on n'ira pas en enfer. Enfin, pas pour cette raison-là. Donc, ça, c'est le 2 décembre. Reste l'Église catholique, nous dit Christiane Chambaud et Jean-Michel Bezat. Reste l'Église catholique. Elle ne désarme pas.
C'est curieux.
Hein, il charge à coup de crosse. Incroyable, c'est curé qui se permet d'être contre l'avortement. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, pour votre défense?
C'est effectivement assez scandaleux que les religieuses soient contre ce pourquoi ils sont constitués.
Ben oui, évidemment.
Contre, évidemment.
Voilà, c'est fabuleux. Quoi. Ils se permettent de prier, en plus. Ouais. Je sais. Comme disait le docteur Dor la semaine dernière, c'est scandaleux de prier devant un avortoir. C'est un acte qui va être réprimé justement par la loi. Alors, elle ne désarme pas, même si elle récuse tout amalgame avec les mouvements violents. Et je voudrais bien que Mme Chambaud et M. Beza nous disent quand il y a eu un mouvement anti-avortement violent en France. Quand? Mais quand? Qu'est-ce qu'il y a eu comme violence? C'est incroyable de mentir d'une façon aussi impudente.
Les mouvements qui reçoivent des violences. Ouais,
mais le problème, c'est que pour eux, être contre l'avortement est une violence faite aux femmes.
Alors, l'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger, vient d'appeler le législateur à, ouvrez les guillemets, favoriser l'aide aux femmes enceintes en difficulté et promouvoir une alternative à l'avortement. Ben moi, je suis bien désolé, mais Lulu, c'est pas ça qu'on attend d'un évêque. Ouais. On attend d'un évêque qui dise, très simple, c'est extrêmement clair ce qu'on attend d'un évêque qui dise, c'est l'avortement est un assassinat. Les avorteurs sont excommuniés par l'Église catholique. Ils s'en foutent d'ailleurs. Si on s'en rapporte à ce que disait le début du papier, ça va leur, ça va leur toucher une oreille sans faire bouger l'autre. C'est très probablement l'effet que ça va faire sur ces gens-là. Mais n'empêche, au moins l'Église, elle leur a dit quelque chose. Et non pas une alternative à l'avortement, parce qu'il faudra trouver une alternative à l'euthanasie aussi. Puis une alternative à l'assassinat. Hein. Pourquoi ne pas se contenter de casser la gueule aux vieilles dames? Ne les tuez pas, bornez-vous à leur taper dessus, jusqu'à ce qu'elle vous donne le fric, et Lulu sera content. Voilà, André 23, archevêque de Tours et responsable des questions de la famille à l'épiscopat, a tenu le même discours, ben pour une fois ils sont d'accord, mercredi 22 novembre devant les députés. Il n'était qu'une poignée à s'être déplacé pour l'écouter. Oui, mais ça, c'est pas une preuve, Madame Chambaud, parce que, en général, les députés, ils sont qu'une poignée à l'Assemblée nationale, sauf quand c'est le jour de la paye. Il y a deux jours où ils sont là.
Le mercredi.
C'est le jour de la paye, et le mercredi, pour passer à la télévision. Et d'ailleurs, il y a un type, il faut que vous regardiez ça. Et un jour, je vais lancer un concours. Je n'ai pas son nom en tête, mais c'est le député ambulant. Il se promène dans les travées et il se colle systématiquement derrière le mec qui pose la question. Et alors, vous le voyez, on a l'impression qu'il va faire « Bonjour, bonjour !» Je voudrais dire un petit bonjour à ma maman et aux amis de Concarneau. C'est prodigieux. Alors, vous voyez le communiste qui pose sa question. Je voudrais demander à monsieur le ministre de l'Intérieur si, etc. Puis il est derrière, mais, après, il y a un député giscardien qui dit, je voudrais poser une question au ministre des Finances, et on voit le même type derrière. Il court dans les travées pour être tout le temps là. C'est superbe. Beau métier, député. Il est bien payé pour faire en plus, hein. Voilà. Alors, il y a un autre beau métier, c'est journaliste au Figaro. Ça, journaliste au Figaro, moi j'aimerais bien. Ça vous intéresserait pas, Victoria, d'être journaliste au Figaro?
Bof.
C'est mieux payé que journaliste au Livre Journal. Alors, il y a par exemple Monsieur Rouard Jean-Marie, de l'Académie française. C'est pas n'importe qui, Rouard Jean-Marie. Ah oui, de l'Académie. Alors, Monsieur Rouard Jean-Marie, il écrit dans le Figaro, de l'Académie française, et je vous assure que ce qu'il écrit, c'est pas piqué des hannetons. Moi, si j'étais lecteur du Figaro, Dieu sait, c'est pas le cas, mais si j'étais lecteur du Figaro, il y a longtemps que j'aurais résilié mon abonnement. Parce que je me demande si le petit bourgeois moyen qui lit le Figaro, il s'attend à lire ce que M. Rouard écrit à propos de la torture. Alors, je vais quand même vous en donner des petits aperçus, parce que pourtant, j'en ai vu dans ma vie. Hein. Mais là, je suis quand même resté un peu bleu marine. Parce que le camarade noir, il fait très, très, très fort. Mais très fort, vous allez voir. Le débat qui vient de s'installer à propos de la torture en Algérie réveille des monstres que l'on pensait chasser à jamais. Pas seulement le spectre de l'horrible guerre d'Algérie, monstre, il y a des répétitions dans votre papier, M. Rouard, de l'Académie française. Non,
c'est voulu.
Monstre au visage multiple, oui c'est toujours ce qu'on dit d'ailleurs, qui continue de hanter les consciences, cliché, mais aussi la face ordinaire d'une abjection tranquille. Alors là, hanter la face ordinaire d'une abjection tranquille. Hein. Bon, deux points, la justification de la torture. La torture et les mots qui accompagnent les viols, les exécutions sommaires. Loin de provoquer une indignation et une réprobation unanime, cette question devient l'objet d'un débat. Elle tourne même à la querelle casuistique. Dans quelles conditions la torture peut-elle être admise? Est-elle efficace? Je peux vous dire qu'il y a des mecs qui trouvent qu'elle est effectivement très très efficace. Je pourrais même donner des noms. On a des... Bon. N'est-elle légitime que dans une guerre de type colonial ou contre le terrorisme? on croit rêver en quelques... Alors écoutez bien ça quand même, c'est énorme. On croit rêver en quelques semaines, dans l'ordre de la civilisation, on a reculé de 2 siècles. On est revenu avant la révolution qui a aboli la torture. Ça, c'est dans le Figaro, Monsieur Roy, l'Académie. Monsieur Roy, il faut lire les journaux, il faut lire des livres d'histoire. C'est intéressant de lire l'histoire des Frances. Alors, je veux dire, là, en ce qui concerne l'abolition de la torture par, par la révolution, mon excellent camarade Philippe Loncard-Assac publie dans le numéro qui est sorti ce matin du Libre Journal un article dans lequel on lit ça. D'abord, je voudrais dire que quand il dit que dans l'ordre de la civilisation, on a été renvoyé 2 siècles en arrière, Monsieur Roy oublie un détail qui a quand même son importance, c'est que il y a quelques années, la législation de la torture en Israël, la torture a été légalisée en Israël sous contrôle médical, histoire que ça dure plus longtemps. Là, j'ai pas le souvenir que Monsieur Roy ait publié beaucoup de papiers contre ça. Donc ça, c'est pas il y a 2 siècles, Monsieur Roy, c'était il y a 2-3 ans. Alors, en ce qui concerne la torture abolie par la Révolution, je vous renvoie à Ploncard-Assac. On peut rappeler, par exemple, que le conventionnel Carrier, écrit-il, celui des Noyelles de Nantes, proclame « Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter à notre manière ». Westermann, rendant compte à la Convention de la mission qu'elle lui a confiée, déclare « Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous nos sabres libres avec ses femmes et ses enfants. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, déjà l'avortement. Massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. » Voilà. C'est ce que René Sédillo appelait la promotion démocratique de l'Holocauste. Alors, ça, pour abolir la censure, on a quand même vu, la torture, on a quand même vu, mais quand même, lire dans le Figaro, sous la plume d'un académicien français, qui par ailleurs est un homme, il faut lire les mémoires de M. Roy quand il raconte son enfance. Hein, c'est pas n'importe qui, M. Roy, ça pète dans la soie depuis le premier jour. Il naît avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et alors, c'est de son haut qu'il nous explique ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. Et je continue. On est simplement en train de mettre sur pied, de manière insidieuse, une morale des droits de l'homme à géométrie, à géographie variable. En ce moment, on est en train de faire ça en ce moment. Incroyable. Incroyable. C'est une innovation extraordinaire. Extraordinaire, quand même. Il se fout du monde. Et le principe que l'on avance pour justifier ces pratiques injustifiables, c'est un argument massu, c'est le cas de le dire. En plus, il a un humour.
Ça
va,
hein. C'est rire, hein.
Mais il nous fera mourir de rire, celui-là. Celui de l'efficacité, de cette dégoûtante efficacité, qui est la nouvelle religion de ceux qui ne croient plus à rien, sinon à la perfection d'une action à laquelle ils ne donnent aucun sens. Je sais pas. C'est pas en français, monsieur. C'est une morale pour robots. Belle efficacité, en effet, que celle de la torture, qui souille autant ceux qui la pratiquent que ceux qui la subissent. Belle efficacité qui est en passe de déshonorer un drapeau, une œuvre qui se voulait émancipatrice, et quelques gloires militaires chevrotantes à qui on ne demandait rien, sinon de cuver leur honte en silence. C'est étonnant, hein. Dans le Figaro, la signature de monsieur...
Qu'est-ce que c'est académicien?
Qu'est-ce que Jean-Marie c'est que ce... Roy, académicien français.
Que c'est claque, hein, ouais.
Alors je continue, parce que je ne vais pas vous faire grâce d'une seule ligne, c'est trop
effrayant,
beau.
Ouais.
Donc, et alors, la suite est encore plus belle. Écoutez bien. C'est le Parti communiste qui, le premier, a lancé le pavé dans la mare en demandant dans l'humanité une condamnation solennelle de la torture, puis la constitution d'une commission parlementaire d'enquête. Alors là, je vous invite à lire les bouquins sur la résistance et sur l'épuration. Hein. Le travail des communistes pendant l'épuration, les rapports médicaux de l'époque. Monsieur Marcel Villard, par exemple, ministre communiste de la justice de Monsieur De Gaulle, en août 44, il disait « Désormais, le signe de la justice ne sera plus la balance, mais la mitraillette. » Ça, c'est Plancard qui écrit ça dans le Libre Journal. Les rapports médicaux de l'époque indiquent les lieux de détention. Villa Saïd, Drancy, Bicêtre, Commissariat, Vélodrome d'Hiver, les auteurs, FFI, FTD, Milice Patriotique ou de la dite force publique. L'état des torturés. Alors là, fermez vos oreilles, ma petite Victoria, parce que ça va vous faire du mal. Brûlure au briquet, bougie allumée dans l'anus, pointe des seins coupés, dents cassées, brûlure électrique dans le vagin, l'anus, de la plante des pieds, coup de barre de fer, section de doigts, arrachage d'ongles, membres déboîtés, lésions de marche ou de reptation sur du verre, brûlure de cigarette pour cautériser les plaies des coups, aspersion d'essence et mise à feu, enfoncement de la boîte crânienne, de la cage thoracique, lésions méningées cérébrales, lésions de la moelle épinière, lésions de l'œil, le tout agrémenté de viols de femmes et de fillettes promenées nues et le crâne rasé. De torture et de mise à mort, l'amiral Platon a été écartelé entre détracteurs par les communistes espagnols. Le comte Christian de Langeril,
père de 5 enfants, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, médaillé de Verdun, volontaire en 39, à l'âge de 55 ans, monarchiste, parce qu'il était monarchiste, il a été arrêté, il a été mis complètement nu, assis sur la pointe d'une baïonnette, on lui a coupé les pieds, on lui a transpercé les mains, on lui a transpercé le thorax et le dos avec une baïonnette rougie au feu. On l'a ranimé pour verser du pétrole enflammé sur ses plaies et il a mis 55 jours d'agonie pour mourir. Voilà ce que ces enfoirés de communistes ont fait et ce que M. Roy nous ose nous dire après que l'humanité a le premier lancé le pavé dans la mare en dénonçant la torture. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. C'est honteux de faire des choses pareilles. Dans le Figaro, mais quel scandale. C'est répugnant. Et alors il ajoute que lui, il ne trouve rien de choquant au fait que les communistes aient fait ça. Personnellement, je ne vois dans cette proposition rien de choquant. Après tout, ce parti peut s'être trompé, égaré gravement. Faut-il pour autant lui dénier à jamais le droit d'affirmer des vérités et des principes universels ? Qu'on le contredise s'il se trompe, soit, mais en l'occurrence, non seulement il ne s'est pas trompé, mais il a vu voler à son secours ceux-là même qu'il dénonçait, les généraux Massu, Osarès et autres porteurs de sabres. Voilà, et tout le papier comme ça. C'est une abjection, cet article.
C'est insoutenable. Hein.
Alors, vous comprenez, moi je veux bien que la presse nationale, la presse de droite, on nous dit toujours, vous êtes trop violents, vous êtes des durs, vous êtes... Mais la presse de droite, c'est ça, le Figaro. C'est ça, votre presse de droite, c'est ça qui défend la France, qui défend les traditions, qui défend l'honneur de la France. Monsieur Rouard de l'Académie française, en plus, il y a quand même un truc qui est un gag fabuleux, c'est que Monsieur Rouard, il se déguise en pantin, il se déguise en soldat de bois quand il va à l'Académie française. Hein? Il a son petit uniforme vert avec son petit sabre au côté.
Il doit être beau comme tout.
Il doit être joli comme tout. Est-ce qu'on va en finir avec cette hypocrisie, cette fausse cuterie, cette scandaleuse trahison de tout ce que nous...
C'est insoutenable.
Tout ce qui fait notre vie, notre civilisation. C'est intolérable de voir un homme comme Rouard. Lisez ses mémoires. Vraiment, vous allez voir ce que c'est que ce personnage. Et voler à l'appui des communistes dans une opération qui est strictement une affaire de politique politicienne et de politique étrangère. Parce que pourquoi en ce moment est-ce qu'on parle tellement de la torture ? Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. D'habitude, quand on lance un sujet, c'est parce que il y a un livre, un film, un type qui meurt. Alors là, un grand tortionnaire ou un grand torturé serait mort. On dirait, bah tiens, c'est le moment de réveiller la question de la torture. Mais la torture à propos de l'Algérie, je vous signale qu'il y a eu, depuis l'indépendance de l'Algérie, 10 000 fois plus de gens morts sous la torture que pendant la guerre d'Algérie. Et j'ai cherché sur Internet, hier, des sites sur la torture en Algérie, et j'en ai trouvé un qui est un recueil formidable de témoignages de gens torturés. Alors, le témoignage de Béchir Smala, le témoignage de Mohamed Bouala, le témoignage d'un tel, le témoignage... Alors, je me jette là-dessus en disant ça, c'est des types, on va voir ce qu'a fait l'armée française en Algérie, je vais voir s'il y a des témoignages sérieux avec des noms, etc. Et je commence à lire, non, c'est pas du tout ça, c'est des gens qui ont été torturés en 1993. Alors, sauf erreur de ma part, en 93, il y a 30 ans qu'on avait foutu le camp. Et ils dénoncent la torture que pratiquent les militaires, les policiers, les gendarmes algériens contre les Algériens. Et ce qu'ils racontent, notamment il y a un témoignage où un type raconte comment sa mère a été torturée sous ses yeux par les gendarmes. Ce qu'ils racontent, ça ridiculise ce qu'ont pu faire les soldats français. On parle par exemple de la GIGN. Bon, tous les officiers français qui ont pratiqué les interrogatoires ont eu, je dirais, la curiosité un peu à la fois normale et un peu bizarre d'expérimenter la GIGN sur eux. Alors évidemment, ils n'ont jamais prétendu que c'était une partie de plaisir. Mais si vous comparez un coup de GIGN avec ce qu'on raconte les Algériens qui ont été torturés en Algérie en 93 par des Algériens, mais moi je réclame la GIGN. Plutôt 2 heures de GIGN que 10 minutes de ce que les Algériens ont fait.
Mais vous avez entendu ce qu'a raconté le commandant Guillaume quand il était avec son commando de Saint-Côme en pénétration, qu'ils ont assisté au découpage au rasoir des lèvres d'un type... In vivo. Quoi.
Mais vous allez voir, je vais publier j'ai parlé de ça la semaine dernière, je vais publier ce document, parce que je vais vraiment le faire, c'est indispensable. Il y a des photos qui dépassent
l'imagination. Il faut voir le livre vert que mon père avait eu quand il était à l'ordre des médecins d'Alger, le livre vert à l'ONU en 57,
voilà,
je crois.
Fait, ça sera
c'est horrible, quoi.
Alors, pourquoi on sort ce truc en ce moment, hein? Pourquoi ce mauvais coup médiatique? Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de fait divers, il n'y a pas de décès de personnalité, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas de parution de livre, il n'y a pas de sortie de film, il n'y a rien. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Lionel Jospin a été invité au dernier dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Et c'est là qu'il a lancé l'opération. C'est là qu'il a dit, après avoir condamné les débordements antisémites sur le sol français, d'ailleurs sans jamais dire qui étaient les auteurs de ces débordements antisémites, il a dit qu'il fallait dénoncer la torture en Algérie et qu'il fallait prendre des mesures pour indemniser en quelque sorte les victimes de la torture en Algérie. Pourquoi il a fait ça à ce moment-là ? C'est quand même tout à fait étonnant, cette espèce de choix. Or, moi, qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'en ce moment, depuis qu'on parle de la torture, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez regarder la télévision, vous pouvez regarder les journaux, la bande de Gaza, c'est terminé. Hein ? Pas question. On n'en parle plus. Autrement dit, qu'est-ce que ça fait ? D'une part, quand les Français disent aujourd'hui « ce qui se passe en Palestine est intolérable », on leur dit, écoutez, vous n'allez pas venir nous pomper l'air avec ce que vous avez fait en Algérie, vous n'allez pas nous donner des leçons à nous avec ce qu'on fait, à propos de ce qu'on fait avec les Palestiniens, parce que vous avez fait bien pire. Déjà, ça, comme ça, on est obligé de se taire. Deuxièmement, on dit aux Algériens de France, attendez, vous mettez des cocktails Molotov contre les synagogues, mais ce n'est pas les Juifs qui vous ont torturé en Algérie ou qui ont torturé vos pères en Algérie. C'est ces salauds de Français qui ont fait ça. Donc si vous avez des cocktails Molotov en trop, c'est pas sur les synagogues. Sur la synagogue qu'il faut les jeter. C'est sur les Français. Vous, fils de torturés, défendez-vous contre les fils de tortionnaires. Et puis, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, où c'est un véritable génocide qui est en train de se passer. On affame les gens, on leur coupe l'eau. Avant de leur couper autre chose, on leur coupe l'électricité. On les terrorise littéralement, on les tue. Mais ça, personne n'en parle, parce que la France est préoccupée par une seule chose, le débat sur la torture, qui rend tout le monde fou. La meilleure preuve, c'est qu'on voit un papier dans le Figaro qui félicite les communistes du travail qu'ils ont fait pour dénoncer la torture, et qui prétend que la révolution a mis fin à la torture en France. Mais vraiment, moi, écoutez, je ne sais pas...
Plus c'est gros, mieux ça passe.
Ben voilà. Mais alors, ou c'est moi qui suis complètement fou, ou alors, comme je le dis toutes les semaines, ou c'est ce monde qui est devenu totalement fou. Voilà. Je crois d'ailleurs que M. Roir va recevoir quelques lettres qui ne sont pas piquées des hannetons. J'ai un ami qui m'a envoyé une copie de la lettre qu'il lui adresse. Je vous garantis que c'est à peine poli. Hein.
Quelle est la date du journal ?
La date du journal, c'est hier, c'est le Figaro d'hier. C'est le Figaro du... bah oui, d'hier. Donc on est quoi ? On est mercredi, c'est donc le 28. Voilà, je vous en recommande la lecture, mais ne l'achetez pas. Non. Empruntez-le, fouillez dans les poubelles, il doit bien avoir un exemplaire qui traîne par-ci, par-là. Alors, puisqu'on parle de racisme, on va continuer. Vous savez qu'il y a eu une affaire absolument terrible à Dresde et en Italie. Ça va mal, le racisme, en ce moment. Hein. En Italie, il y a un professeur d'université, type très connu, qui a protesté parce qu'il avait été menacé, passé à tabac par des racistes, etc. Il a porté plainte et il y a eu une enquête, ça s'appelle Toledo, hein, c'est ça ? C'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble. Et c'est curieux comme nom pour un Italien, parce que Toledo, c'est plutôt en Espagne, enfin... Je sais pas. Et donc, il a porté plainte et tout. Alors, les flics italiens, qui sont au moins aussi malins que les flics français, ils ont fait une enquête. Et ils ont découvert qu'il n'y avait jamais eu la moindre agression. Le type a fini par avouer qu'il avait tout inventé, tout simplement parce qu'il allait être muté dans une autre université et ça ne l'arrangeait pas. Donc, il a inventé une agression raciste. Mais entre-temps, entre le moment où il a porté plainte et le moment où on a prouvé qu'il n'y avait rien d'une, il y a quand même eu quelques manifestations où on a appelé à l'interdiction des mouvements d'extrême droite et des mouvements racistes. Et alors, en Allemagne, eh bien, il y a un petit garçon qui s'appelle Joseph Abdullah, dont le père est d'origine iranienne, qui a été retrouvé noyé dans un bassin dans un jardin. Alors, il y a eu une dénonciation anonyme, bien entendu. Les néo-nazis ont noyé un enfant. Alors, il y a un témoin qui est venu, des témoins à charge, qui sont venus au procès. Ils ont dit que oui, absolument, les néo-nazis ont noyé. Alors, on leur a dit, vous étiez là, vous les avez vus ? Non, pas du tout, non. On nous l'a dit. Donc, les témoins à charge, aucun des témoins occultes, aucun des témoins à charge interrogés n'avait assisté au fait.
Parce qu'évidemment, ça pose un petit problème sur la validité du témoignage. D'autre part, il y a, parmi les trois suspects, parce qu'on avait arrêté immédiatement trois nazis, qu'on a foutu en tôle, ça fait mange pas de pain, un des trois suspects a fourni, selon le parquet, un alibi qui n'a pas été possible de démonter. Alors on imagine tous les mecs du parquet qui disent, pas un tournevis, il faudra arriver à démonter l'alibi de ce gars-là. Rien à faire, ils sont pas arrivés à le démonter. C'est plus compliqué qu'un réveil matin. Donc le gars, il a un alibi et il n'y a pas de témoin visuel. Hein. La mère a, selon le parquet, suggéré certains des témoignages, la mère de l'enfant, et aurait versé aux témoins des sommes allant jusqu'à 150 marques. Aucun motif d'extrême droite n'apparaîtrait pour l'instant dans le dossier. C'est vrai que même étant d'extrême droite, on voit mal quel motif on pourrait avoir de zigouiller un enfant de 6 ans. Peut-être si on est une ordure, on a... Oui, mais toutes les ordures ne sont pas d'extrême droite et tous les gens d'extrême droite ne sont pas des ordures. C'est dommage, ça serait plus simple, c'est pas comme ça que ça marche. Et alors, devant l'immense émotion qu'avait suscité l'affaire, le chancelier Gerhard Schröder, qui est jamais à l'abri d'une connerie, avait immédiatement reçu la mère de l'enfant. Elle lui avait peut-être filé 150 marques aussi, je ne sais pas. En tout cas, ils ont libéré les trois skinheads. Voilà. Puis maintenant, c'est la mère de l'enfant qui va aller en prison pour subordination de témoins. C'est la faute aux nazis d'ailleurs, ça, en plus. Parce qu'il n'y avait pas de nazis, ils ne seraient pas obligés de monter des trucs comme ça. Et puis, on parle beaucoup d'affaires de pédomanie, alors je vous signale que les curés vont peut-être avoir la paix pendant un moment, là, parce que depuis ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur Abbé, c'est que les curés étaient dans le cœur de cible hein, voilà, sur les histoires. Donc ça va changer maintenant, parce que on vient de mettre sur pied un réseau de diffusion d'images pédomaniaques sur Internet, mettant en cause des établissements secondaires et universitaires de Lorraine et de Belgique. Donc ça y est, on repart sur la piste du professeur vicieux. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va faire moins de bruit que les curés. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que les médias préfèrent quand c'est un prêtre.
Ah, vous croyez ?
Oui, mais je... Et puis, il y a quand même la bonne nouvelle du jour. Ça va vous plaire ou ça ne va pas vous plaire, je ne sais pas. Mais il y a un jeune beurre qui jouait avec son pistolet à grenaille dans la rue. Il s'en est filé un coup dans la tête. Il ne jouera plus avec un pistolet à grenaille. Voilà. Alors, je me demande ce qu'il foutait avec un pistolet à grenaille. Il l'a peut-être trouvé.
Dans la poche d'un néo-nazi.
Voilà, il avait confisqué un néo-nazi. Nordine, 17 ans, ça c'est autre chose, a été mis en examen pour assassinat écroué mardi 28 novembre après la mort de Salim, un adolescent du même âge. On disait, pendant l'occupation, quand il y avait des petits Allemands, les gens disaient, dis donc, ça va mal, ils sont obligés de les couper en deux maintenant. Et là, on peut dire qu'ils se tuent entre... Il y a dans Marianne un truc fabuleux aussi, j'ai relevé, qui est très très beau, et puis après je vous laisserai tranquille avec l'actualité. Voilà, dans Marianne. Alors c'est encore une histoire de skinhead, vous savez, c'est l'histoire des skinheads qui ont défenestré un indien dans un train. Ça c'est pas une histoire de western, c'est des gars qui étaient dans le train de Saint-Germain, ça n'a rien à voir avec le train de...
Je crois pas que c'était des skinheads. Hein?
Ah ben ils disent des skins. Ah non, ils disent des jeunes gens.
Des prêtres.
Trois jeunes gens jouent au contrôleur dans leur air, ils défenestrent un indien. Mais où est-il donc passé? On n'a pas trouvé l'indien. Alors, donc, on croyait un remake du train d'enfer, nous dit le journaliste de Marianne.
Oui, du grain à moudre. Hein.
Mais manque de bol, ça tourne mal parce que, écoutez la suite. C'est fabuleux. Les trois hommes ne sont pas des skinheads malgré leurs cheveux courts. Et pourquoi ce ne sont pas des skinheads malgré leurs cheveux courts? Ils ne tiennent pas de propos racistes, entre parenthèses. L'un est marocain. Fermez la parenthèse. Donc, je m'adresse à mes camarades d'extrême droite. Si vous avez envie de faire une opération, vous prenez un marocain avec vous comme ça, vous êtes tranquille, on pourra jamais dire que vous êtes d'extrême droite, puisque vous avez, l'un d'eux était marocain, monsieur le juge.
S'il vous plaît.
Hein? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas des skins, c'est pas des néo-nazis. Ce sont des paumés bourrés de bière.
Je vois pas la différence entre des skins et des paumés bourrés de bière.
Donc à quoi on reconnaît un skin d'un non-skin? Ben, le skin, c'est un paumé bourré de bière, mais le non-skin en plus, il est marocain. Hein, vous voyez, c'est ça qui fait la... Ils ont tous les trois les cheveux courts, ils sont tous les trois bourrés, ils sont tous les trois paumés, mais il y en a un qui est marocain, et donc celui-là, il est pas raciste.
A-t-on pu établir si l'Indien disparu avait un billet ou était en situation irrégulière?
Alors ils pensent que c'est pour ça qu'il ne s'est pas manifesté.
Ah.
D'une part, il devait avoir peur qu'on lui pique son arc et ses flèches. Et en plus, il n'avait pas de son billet. Ah, attends, on n'est pas péché, mon rigole, quand même.
Il est disparu, mais il n'y a pas de fumée sans feu, surtout chez les Indiens.
Oui, je ne vais pas continuer les cœurs, mais si vous trouvez un numéro du Monde, accrochez un petit anneau métallique dans l'endroit de ce matin. Il faut lire le papier de Luc Rosenzweig sur l'émission de Mireille Dumas qui est passée hier, justement à propos des pédomanes. Oh là là, elle est habillée pour l'hiver, la mère Dumas. Là. Il s'aime, hein? Oh, il s'aime beaucoup, il s'aime beaucoup. Alors, il dit en deux mots, prends la défense de Monseigneur Patenôtre, qui a été misérable dans cette émission, ça n'étonnera personne. Et il n'avait pas compris, le pauvre, que l'émission de Mireille Dumas vise moins à éclairer le public sur les problèmes qu'elle aborde qu'à mettre en évidence les éminentes qualités intellectuelles et télégéniques de son animatrice. Son armée d'assistants lui propose un plateau dont les invités sont pour elle comme les touches d'un clavier où elle joue une petite musique à sa propre gloire.
C'est coquet.
C'est gentil.
Donc vous allez voir, à mon avis, Mireille Dumas, avant 3 mois, elle a giclé. Quand le monde ne veut pas de quelqu'un à la télé.
Mauvaise
idée. Pour en finir avec les skinheads, il y a une nouvelle absolument admirable. Ça fait 4 lignes dans le Monde. Des immigrés somaliens sont tombés à bras raccourcis samedi 25 novembre dans une rue d'Helsinki sur 3 jeunes qui se rendraient à un bal masqué déguisé en skinhead.
C'est quoi ce gentil, dis donc. Ben alors,
moi j'imagine le contraire. C'est-à-dire, vous imaginez 3 gars qui cassent la gueule à des mecs déguisés en nègre. Alors, c'est là.
En Somalie.
Oh là 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 là.
Le monde est fou.
Mais totalement fou.
Faut éviter de se déguiser en indien.
Oui, bah oui.
Avec son ticket.
Et vous savez en plus que il y avait un des principaux mouvements anti-droite et anti-raciste qui s'appelait le scalp quand même. Ouais. Voilà. Alors, donc quoi, des messages?
Vos auditeurs sont très très contents de tout ce que vous venez de dire. Et oui, en particulier, merci de clouer au pilori l'article de Monsieur Roar que j'ai lu dans le Figaro et qui m'a indigné. Ça, vous en avez 56 comme celui-là. En France, la torture utilisée par la justice, qu'on appelait la question, a été abolie par Louis XVI. D'autre part, le nom du député qui se promène dans les travées est Monsieur Lucien de Gauchy, RPR. Saint-Jules disait, les nations se régénèrent.
C'est peut-être lui qui a appelé.
Ah oui, ah, c'est vrai.
C'est pas Blucher.
Ah, bien sûr, il s'est dit pour une fois qu'on parle de moi. Là, c'est moi. Hein.
Bon, alors. Les nations se régénèrent sur des monceaux de cadavres. Puis alors là, il y a une question, Monsieur de Becket, je vais vous empêcher de rire tout de même. Pourquoi êtes-vous contre l'avortement puisque vous êtes persuadé que le fœtus n'a pas d'âme?
Moi, j'ai dit ça.
Vous avez dû dire ça. Moi, je sais pas, j'ai pas entendu. Mais
quelle
enfin.
Évidemment que je sais. L'âme, elle rentre dans le corps au moment de la fécondation. J'ai toujours dit ça. Je n'ai jamais dit que le fœtus n'avait pas d'âme. Ça va pas, non?
Alors, on reproche au pape d'être contre l'avortement, mais les rabbins et les imams le sont également, et ils sont obéis beaucoup plus que le pape.
Oui, mais ça, c'est de la faute du pape. Hein.
Dans son préalable...
C'est de la faute des rabbins et des imams.
La loi... n'évoquait nullement un prétendu droit à l'avortement, mais au contraire un droit à la vie. Pour dissuader la mère d'avorter, il était prévu de lui remettre un dossier guide des droits... Aide, avantage garanti aux mères célibataires.
Vous savez, ça, c'est le principe de la société d'inversion. On vit dans une société d'inversion, comme dit Chavannes, et on vit dans une société du mensonge. Par conséquent, dès que quelqu'un arrive en disant « Je vais faire ça pour votre bien », il faut cavaler, vous sauvez-vous en courant, parce qu'il vous prépare un mauvais coup. Quand on vous dit « On va changer les impôts pour que vous soyez moins saignés », vous pouvez être sûr que ça va être pire. Tenez, récemment, par exemple, ça n'a rien à voir, mais... C'est toujours la même technique. France Télécom a annoncé qu'il réduisait les abonnements et qu'il modifiait le prix des communications. Or, c'est vrai que j'ai un ami qui a fait un calcul, c'est un polytechnicien l'a mis en question, donc ça doit être sérieux quand même son calcul, de savoir additionner et diviser. Comment? Pourquoi on tous? Non, c'est un vrai polytechnicien, un dur de dur. Et donc il a calculé que, avec la nouvelle facturation, le nouveau prix des abonnements et le nouveau prix de la communication, si vous téléphonez moins de 2 minutes, vous économisez 19%. Si vous téléphonez plus de 7 minutes, vous économisez 21, 22, 23%, des choses comme ça. Mais si vous téléphonez entre 2 et 7 minutes, l'augmentation de la facture est de 25%. Or, alors, vous allez dire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, après des années et des années d'études, ils ont constaté que 99% des communications téléphoniques, c'est plus de 2 minutes et moins de 7 minutes. Ah, c'est ça. Donc ils jouent les caïds sur le reste en disant vous pouvez téléphoner une demi-heure, ça vous coûtera 25% de moins, mais si vous faites comme tout le monde, eh bien vous allez payer beaucoup plus cher.
C'est intéressant pour les bègues.
Oui, ça n'est intéressant que pour les bègues, à condition qu'ils parlent à un sourd. D'autres ?
Il y avait des commentaires sur l'avortement. Aux Pays-Bas, c'est 22 semaines, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Espagne. Avortement de 10 à 12 semaines, c'est un petit être de 15 cm formé avec des pieds, des poings, des yeux, un sexe. C'est un assassinat.
Bien sûr.
Pourquoi y a-t-il deux manifestations ? Question. Pour contre l'avortement, l'une aujourd'hui et l'autre le samedi 2 décembre.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, mais c'est aussi bien, il doit y en avoir tous les jours.
Alors, que pensez-vous de l'émission d'Evelyne Thomas ? Qui s'appelle C'est mon choix. Cette animatrice est anti-avortement.
Ah bon ?
C'est tout à fait extraordinaire. J'aimerais savoir, concernant les mouvements contre l'avortement, ce que vous pensez du mouvement appelé les survivants, dont France 3 a parlé aux Nouvelles de Midi.
Je ne connais pas.
Je m'éclate en vous écoutant. L'audimat.
Je m'éclate au Sénégal, disait la.
L'audimat doit crever le plafond.
Mais non, ça c'est une erreur, parce que pendant l'émission, vous pouvez dire n'importe quoi, ça ne peut pas changer l'audimat, parce que ça, changer l'audimat, ça supposerait que les gens qui n'écoutent pas se disent « Tiens, il y a quelque chose d'intéressant à la radio, je vais écouter. » Non, ce qui change, c'est les gens qui s'en vont.
Alors, vous pourriez également rappeler l'affaire de Boudarel, salopard communiste aux ordres du Viet Minh, qui a été gracié par la justice française.
Oui. Pléonasme, ce qui lui était un authentique tortionnaire, un authentique assassin de soldats français.
Et là, on vous suggère, à la suite de la manif du 2 décembre, il faut que les participants se rendent à la salle Wagram où il y a une vente pour la paroisse Sainte-Germaine.
Il n'y a pas de petit profit.
Voilà.
Mais on va en parler de la vente. Je vous signale d'ailleurs, puisqu'on en parle tout de suite, il va y avoir une quantité impressionnante de livres anciens. C'est un libraire breton qui a fait don à la kermesse de plus de 1000 titres de livres de livres de foi, livres d'oraison, livres de comment appelle-t-on ça de piété, voilà, d'ouvrages de piété, dont certains fort beaux et fort intéressants. Et ça vaut le coup d'y aller, ne serait-ce que pour ça, parce que peut-être que vous trouveriez, Monsieur l'Abbé Cellier, des ouvrages à rééditer en facsimilé.
Oui, j'en ai tellement à rééditer. Il y a tellement de choses à faire.
Ça, c'est bien des propos d'éditeurs. Ouais, ils sont éditeurs pour le seul plaisir de dire aux gens votre livre ne m'intéresse, ne rentre pas dans notre projet éditorial.
Voilà, dans notre politique éditoriale, voilà.
C'est tout.
Il y avait encore une sur la guerre d'Algérie. N'oublions pas qu'elle a été déclenchée par un gouvernement socialiste et que c'est François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui a autorisé l'armée à utiliser la torture contre les membres du FLN. Par la suite, Jospin, donc maintenant, n'a qu'à s'en prendre à son propre parti.
Oui, enfin, il faut quand même rectifier, la guerre d'Algérie n'a pas été déclenchée par les socialistes, la guerre d'Algérie a été déclenchée par les communistes habillés en Felaga, qui ont égorgé et massacré des Français sur un territoire français, dans des départements français. Après, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Le gouvernement, il a fait ce qu'il doit faire normalement, c'est-à-dire envoyer la police et la gendarmerie pour réprimer ces crimes et ces assassinats, pour des opérations de maintien de l'ordre, voilà. Donc, en fait, Mitterrand, il a fait ce qu'il avait à faire, pour une fois, et puis, il a tout simplement, pardon, quand on l'accuse d'avoir envoyé des gens à la guillotine, c'est pas lui qui a envoyé des gens à la guillotine, c'est les tribunaux. C'est pas le ministre qui envoie les gens à la guillotine, c'est les tribunaux qui font ça. Alors lui, il aurait pu gracier, il a pas gracié, parce que c'était impossible de gracier des assassins, alors qu'on disait aux gendarmes et aux policiers, réprimer les assassins sur le terrain. Donc, les gars qui n'avaient pas eu la chance d'être arrêtés, qui passaient en justice, ils étaient condamnés à mort par la justice, ils auraient été graciés. Et les gars qui se battaient sur le terrain et qui prenaient une balle dans la tête, il n'y avait personne pour les gracier. Ça ne tient pas debout, cette histoire. L'attitude de Mitterrand, elle est même pas logique. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est tout. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute un petit morceau du... pour détendre un peu l'atmosphère, qui n'est pas très tendue d'ailleurs, un petit morceau du disque des Cœurs Mongeois. Hein, vous allez voir que Victoria va encore s'en aller en disant arrêtez la torture.
Ça recommence.
Ça recommence.
Tout le monde souffre. Thank you.
C'est le chant de France 10, Errare Humanum, Perseverare Diabolicum. C'est le 10e CD des chants de France par le chœur Montjoie, Saint-Denis même d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure, mais je peux déjà dire que c'est sous la direction de. Ça s'appelle ça, Chant de Libération. C'est un chant, un chant anonyme de la guerre de l'époque de la guerre de 100 ans.
Oui.
Et donc les auteurs, ou plus exactement les interprètes, sont sous la direction de Jacques Arnoul, debout messieurs. Tambour, Bernard Gauthier et Fabien de Riaumont. Fifre, Alain Pernet. Piano et popote, Philippe Dounaïef. Tu nous joueras un morceau de popote tout à l'heure?
Volontiers.
Plop, plop, plop. Prise de son, Didier Perrier, à la ferme du Rodon. Et c'est bien, hein? C'est drôlement bien maintenant.
Bon, on compte un petit peu rodé, numéro 10. Alors, il fait partie de cette série de cassettes et de compacts qui ont été édités par nos propres soins. On a eu une excellente maison d'édition pendant un certain temps. Puis bon, on a fini par voler de nos propres ailes. Donc on assure.
Au lieu de voler la maison d'édition.
Même pas. On assure donc, bon bah évidemment le choix de ce qu'on interprète, l'interprétation elle-même, les enregistrements qui font suite à de très nombreuses séances de travail. Nocturne, diurne ou autre.
Une vie de galérien.
Oh, voilà. C'est pénible. C'est...
Mais largement arrosé pour éviter l'inflammation.
Monsieur l'abbé, vous devriez savoir qu'un bon outil ne peut pas travailler à sec.
Voilà. Et puis les galériens sont tout le temps mouillés. Hein.
C'est un métier quand même. Nous maintenons notre principe de base que rien n'est trop dur pour ceux qui nous écoutent.
C'est la devise du cœur bourgeois.
Ma foi, ce dixième recueil fait une compilation supplémentaire de chants qu'on n'entendra pas beaucoup au top 50 pour des raisons mystérieuses. Et hormis ces chants de France, qui est au départ les chants d'Europe, d'ailleurs, dont certains se souviennent, mais depuis qu'on est passé à l'Europe, on est passé aux chants de France, comme voilà, ça
va bien finir aux chants de Paris.
J'espère que vous
avez beau quartier.
C'est ça, c'est un pas trop vite.
Hormis ceci, nous avions donc les chants d'enfants, on a enregistré les chapelets.
Oui, c'était bien ça. Les parachutistes aussi. Les chants de jeunesse aussi.
C'est tout premier, c'était, oui, sur l'Ormeron. Ça remonte un petit peu, et puis chants de la marine en bois, d'autres que certains connaissent. Donc ces albums sont vendus ou bien par correspondance au siège de l'association Cœur Montjoie Saint-Denis, à savoir chez Valérie au 21 rue Campagne Première dans le 14e, 75-014 Paris. Pour la modique somme de 80 francs par cassette audio La Mer Agitée.
C'est pour ça que vous êtes des galériens d'ailleurs.
Sur La Mer Agitée,
un peu. Jamais à sec.
Jamais à sec. Et le CD est donc au prix modique de 100 francs. L'unité, à chaque fois on ajoute 20 francs de port, prix forfaitaire, quelle que soit la quantité commandée. Sinon on est aussi en vente sur Paris.
Oui, à la librairie France Livre.
Voilà, 6 rue du Petit Pont.
Merci, monsieur l'abbé.
Ou bien au catalogue Clovis. Nous avons tout ce qui est produit par le cœur Mongeon Saint-Denis au catalogue Clovis.
Oui. Bravo.
Voilà. À Étampes, boîte postale 88.
Rue Saint-Jacques de Bézégon.
Voilà, voilà. Ouais. Donc 91.
Je signale que les auditeurs qui ont essayé de noter l'adresse, là, ça y est, ils sont largués.
Non, mais on va leur redire
ça tout à l'heure.
On va réécouter les chants de France. Alors, vous avez des enfants, messieurs?
Oui. Ah,
vous en avez combien, vous deux? 14?
6.
Enfin, pas ensemble, je veux dire, mais.
Voilà.
On n'a même pas essayé. Bon. Passons. Je vous dis ça parce que l'abbé Cellier va nous faire. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez des crayons, vous prenez des crayons et du papier, vous allez noter les recommandations de livres pour les petits cadeaux de Noël pour vos.
Ah, des enfants qui savent lire.
Pour les enfants qui savent lire. Qui
savent lire ou regarder au moins. À qui on peut lire parce que
quelques enfants qui savent encore lire, voilà. Qui ne sont pas passés par l'école laïque et publique et obligatoire. Ça va vous être mise, ma petite Victoria?
Oui.
Elle était malade tout à l'heure. Elle
est devenue toute blanche. Je n'aime pas, je supporte mal. Oui,
voilà. C'est la musique.
C'est dur à supporter. Voilà, donc on va parler de livres de jeunesse pour les papas, les mamans, les oncles, les tantes, les parents, les marraines, les grands-mères, les grands-pères. Les arrière-grands-pères, parce que maintenant ça se fait beaucoup. Donc tout le monde a entendu parler d'Harry Potter. Tous les journaux, tous les magazines, toutes les télévisions ont parlé de cette série de livres d'enfants. Donc il y aurait plus de 60 millions d'exemplaires vendus en 3 ans.
66 millions.
Voilà. Et donc c'est évidemment, bien sûr, c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est-à-dire, c'est des histoires de sorcellerie, c'est des histoires de vampires, c'est des histoires de tout. Et c'est pas les pires. Ce ne sont pas les pires, parce que Harry Potter est certainement parmi les plus anodins de ce qui se fait actuellement en littérature pour enfants.
Ils sont interdits dans deux États américains. Je crois l'Arkansas et...
Deux
États américains ont interdit les bouquins d'Harry Potter.
Voilà.
Les aventures d'Harry Potter.
Et donc, en général, d'une façon générale, le livre d'enfants est un livre de corruption. C'est complètement tenu par les syndicats de dessinateurs et d'auteurs de livres d'enfants. Ils sont complètement tenus par l'extrême gauche, pas par la gauche gentille, par l'extrême gauche. Et c'est vraiment une recherche systématique de la corruption. Et donc nous, ce soir, comme chaque année, on propose une petite sélection. Il faut savoir que ça demande plusieurs jours de travail, c'est-à-dire plusieurs jours de recherche pour trouver des livres intéressants, acceptables, bien dessinés, parmi une production qui est énorme, qui est pléthorique, mais dans laquelle on ne trouve pratiquement que des saletés, que des choses laides, des choses horribles, des choses qui corruptrices, la recherche systématique de la déviation, etc.
Donc voilà. Et c'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il y a 20 ans, Marie-Claude Monchot avait publié un livre, un raffut terrible, qui s'appelait Écrit pour nuire.
Écrit pour nuire, et c'est effectivement, non seulement ça se maintient, mais ça ne fait qu'augmenter. Donc vous trouverez cette liste, je pense, vous la trouverez sur le site du Libre Journal, n'est-ce pas? Cette liste-ci, ils n'ont pas le temps de tout noter. Mais de toute façon, vous trouverez tous ces livres et bien d'autres à votre disposition à la librairie France Livres, 6 rue du Petit Pont, 7505 Paris. Donc je donne le numéro de téléphone, 01 43 25 36 67.
Ou on peut aussi se procurer les cassettes du Cœur Mongeon Saint-Denis.
On vient de le dire, donc on peut se procurer les excellentes cassettes et CD du Cœur Mongeon Saint-Denis. Donc je prêterai les livres à Madame Victoria qui pourra en dire grand bien juste après que j'en ai dit du bien.
C'est très bien.
Monsieur l'abbé, à propos de la librairie France Livre dont vous venez de parler, un auditeur vous interpelle. Mais pourquoi diable avez-vous laïcisé notre chère librairie Saint-Nicolas?
Voilà, nous avons changé de nom tout simplement parce que nous sommes en train d'unifier notre service de distribution, puisque notre catalogue s'appelle France Livre, la librairie de diffusion de taille s'appellera France Livre et le site internet de vente qu'on fera s'appellera France Livre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc nous sommes en train d'unifier ce circuit de distribution de façon à ce qu'on appelle une synergie, c'est-à-dire que le catalogue est de la librairie est de le catalogue et le site internet.
C'est bien naturel maintenant, voilà. Synergie et tout, voilà. Ça y va à la manœuvre.
Voilà.
Bon, alors allez en paix, vous aurez quelques pâtères et quelques avets, puis ça fera Rue Michel. Ouais.
Alors, de 1 à 3 ans, donc on va donner ça par âge, de 1 à 3 ans, on propose Cobby Hall, Petit Agneau et l'Arc-en-Ciel, qui est donc chez Attier, et qui est une petite petite histoire d'un mouton qui regarde l'arc-en-ciel, etc. C'est joliment dessiné avec des dessins qui sont plutôt des dessins de type enfantin, mais c'est assez amusant. Alors donc bien sûr c'est écrit en gros. Ce sont des livres bien sûr qui peuvent être lus, hein, qui sont
mais
lus.
Mais j'ai jamais compris pourquoi quand on fait des livres pour les enfants, on fait des dessins d'enfants.
Pas toujours.
Les enfants veulent des dessins d'enfants, ils les font eux-mêmes.
Voilà, pas toujours. Ça dépend. Les gens verraient que l'autre cobiole n'est pas dessiné de la même façon. Alors bien sûr.
Puis celui-là, il est mieux dessiné que par un enfant.
Voilà, hein. C'est ça. La série des petits anges, j'en ai déjà 20. Alors ce sont les 5 derniers qui viennent de sortir, que je cite, donc c'est édité par Clovis. Donc Le secret de Petit Ange, La mission de Petit Ange, Le mystère de Petit Ange, Petit Ange enfant de cœur, et, attendez, on vient de me le voler,
Le
cadeau de Petit Ange.
Le docteur Blantet qui essaye de...
Je le donne à monsieur de Beketch, qui va en dire Merci. Le plus grand bien. Donc, La série des Petits Anges de Jean-Luc Chérier, chez Clovis. Et enfin, toujours pour les 1 à 3 ans, des livres...
Mais vous m'en avez donné 5 d'un coup. Mais
voilà, 5 d'un coup.
Il va falloir toute mon année.
C'est pour ça que je ne reviendrai pas tout de suite. Oh. Voilà. Et alors, toujours de Kobe Hall, toujours chez Attier, ça s'appelle Le secret de l'étoile, et ça, c'est une histoire de Noël. Hein, donc, l'autre, c'est une petite histoire de mouton, mais là, c'est une histoire autour de la crèche, hein, et qui, je pense, c'est une bonne façon d'aborder le thème de la crèche avec les enfants, avec ces joliment dessinés. Et ça, c'est toute une petite histoire autour de la crèche. Donc, Kobe Hall, Le secret de l'étoile, une histoire de Noël.
Kobe Hall, ça s'écrit C-O-B-Y.
Oui, mais je peux le lire.
C-O-B-Y-H-O-L. Je suppose que c'est un Américain, probablement. Ensuite, nous passons de 4 à 6 ans. Alors, de nouveau, une petite histoire de Noël. C'est Marcus Pfister, c'est Une étoile cette nuit-là, et c'est les éditions Nord-Sud. Alors là, c'est pas dessiné comme les enfants dessinent, c'est dessiné de façon très 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 jolie.
Ah oui, c'est très joli ça.
Très joli.
Il y a des
petites argentures pour les étoiles. Hein. C'est tout à fait sympathique.
Ah oui, oui.
Voilà, donc Marcus Pfister, Une étoile cette nuit-là.
C'est pas trop effrayant comme histoire.
Non, ça
se passe la nuit quand même.
Voilà. Alors, toujours pour les 4 à 6 ans... De Barbetti et Vaillon, c'est La vie des animaux de la ferme. Alors là, donc, c'est un livre assez classique, je dirais. Enfin, c'est très sympathique. On voit des jolis dessins. Le canard, la vache, le pigeon, la vache non folle, la poule et ses poussins, le lapin, le dindon, etc. Donc, la découverte des animaux de la ferme. Et malheureusement, beaucoup d'enfants ne vont jamais dans une ferme. C'est peut-être une bonne chose de savoir qu'il existe des animaux, des vrais animaux, qui ne sont pas seulement en barquette chez Aide l'épicier. Voilà, toujours de 4 à 6 ans, la suite des aventures d'Agathe et Louis, donc deux volumes qui sont parus en cette fin d'année. Donc Agathe et Louis en Provence, c'est donc chez Clovis.
J'espère que c'est moins violent que Agathe et Louis en Afrique,
Agathe et Louis aux îles du Vent, donc ça se passe aux îles du Vent, ça se passe donc du côté de Tahiti, et Agathe et Louis en Provence, ça se passe évidemment en Provence autour d'un feu de forêt, ce qui malheureusement arrive bien souvent en Provence. Donc Agathe et Louis en Provence et Agathe et Louis aux îles du Vent, c'est donc chez Clovis. Toujours les 4 à 6 ans, c'est Tim Preston, c'est chez Gauthier Langros, et ça s'appelle L'épouvantail au grand cœur. C'est une très belle histoire d'un épouvantail qui est tout triste parce que les animaux ont peur de lui, et finalement les animaux...
Surprise générale.
Voilà. Et alors ce qui est amusant, c'est que c'est un livre en relief. C'est imprimé en relief, c'est tout à fait... Alors c'est finalement, effectivement, à la sortie de l'hiver, eh bien, les animaux se réconcilient
Je suis étonné que vous recommandiez ce livre-là. Vous voyez pas ce qu'il contient de nocifs.
De nocifs et de pervers, effectivement.
De pervers. Donc,
voilà.
Sûr,
donc, regardez-le.
Pro-immigrationniste.
Voilà.
Ouais,
donc, Tim Preston,
la police.
Voilà, Tim Preston, L'épouvantail au grand cœur de Gauthier Langros.
En tout cas, qu'est-ce que les dessins sont jolis, mais alors c'est ravissant.
C'est en braille.
Voilà,
c'est fait en, comment appelle-t-on ça,
en embouti, un petit peu.
Oui, en gaufré, c'est
en ça. En gaufré, voilà.
Et c'est des pages gaufrées.
Voilà.
Alors c'est très très joli, il y a des dessins d'animaux, des petits renards qui jouent, tous les petits oiseaux qui nourrissent leurs enfants avec des vers de terre, c'est dégoûtant.
Voilà, alors maintenant de 6 à 8 ans,
Donc c'est un conte de la Commedia dell'arte, cet art du théâtre qui a beaucoup existé donc en Italie. C'est donc de Niki Dalich, toujours chez Gauthier Langros, qui est un éditeur qu'il faut soutenir parce qu'il fait des choses jolies. Ça s'appelle Bravo Zan Angelo, et donc c'est le petit-fils d'un acteur de la Commedia dell'arte qui décide de devenir lui-même. Alors il est son grand-père qui ne veut pas qu'il c'est un métier de misère, eh bien il essaie de l'empêcher, et puis finalement ça se réalise avec des dessins inspirés des dessins du XVIIe siècle.
Ah oui, ça c'est très joli.
Voilà.
Parce que vous savez, le père il feuillette, mais il les montre pas, il les cache.
Là, voilà, c'est ça.
Du coup, il vient de me le tendre.
Voilà. De 6 à 8 ans. Donc, Niki Dali, Bravo Zan Angelo, c'est à Gauthier Langros. Alors, plus religieux. Nous avons chez l'association Transmet, qui est une association qui s'occupe, qui va pour les jeunes, la formation spirituelle des jeunes. Donc, c'est de Francine Bay. Et donc, il y a les grands missionnaires et les plus célèbres apparitions de la Sainte Vierge, hein, par Francine Bay. Donc, c'est bien, ça? C'est très bien, oui, ça te fait découvrir, c'est simple, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, hein, 6-8 ans. Et on découvre, alors par exemple, les grandes apparitions, bien sûr, s'il y a Fatima, il y a le Lourdes, il y a, la Salette, etc. Voilà, la Salette.
Il y a Medjugorje?
Ah non, c'est les grandes apparitions reconnues, hein. Voilà, ça c'est la Salette, hein. Et puis ici, les grands missionnaires, donc ça, je suppose que c'est Saint François Xavier, hein, et le Père Brottier, Père Charbel, Saint-Pierre Chanel, etc.
Ah,
tenez,
bien, ça.
Regardez ça. C'est l'association Transmet qui fait des livres qui sont très bien faits. Ouais, bien. Donc c'est de 6 à 8 ans. Donc Francine Bell, Les Grands Missionnaires et Les Apparitions de la Sainte Vierge, collection Transmettre. Alors de 8 à 10 ans, maintenant on passe un petit cap. Je rappelle que donc tous ces livres sont disponibles et bien d'autres à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, 75005 Paris. Alors c'est un livre assez original, qui s'appelle Les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi, qui est un auteur relativement connu.
Bon, mais non, plutôt dans la musique. Que dans
voilà. Alors donc c'est un livre très original. Je pense que c'est bien pour ces enfants-là, pour leur faire découvrir la musique classique. Il y a donc le CD des Quatre Saisons. Il y a les poèmes sur lesquels ont été écrits les Quatre Saisons, et il y a des illustrations de l'époque, donc en fait des reproductions de tableaux de l'époque. Et donc c'est la découverte d'un grand classique de la musique, et on peut feuilleter, expliquer, regarder l'ambiance artistique de l'époque, et je pense que c'est agréable et une bonne formation, une bonne ouverture à la formation artistique.
Musique figurative, que la couverture est très très jolie.
Ouais, voilà.
C'est un tableau à la fabrique, comme on disait. Donc.
Voilà. Alors ensuite, Renaud Dourges, j'ai pas le livre ici parce que j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Donc Renaud Dourges, L'Ermite de Gisors, c'est la suite des aventures de Christophe. Il y avait d'abord eu le premier volume, c'était donc Rendez-vous à Madinina.
Après, c'était aux Antilles.
Voilà. Et là, c'est il revient des Antilles et il y a l'aventure du retour des Antilles où il va aller en Guyane, notamment chez les orpailleurs de Guyane, chez les Indiens puis les orpailleurs de Guyane, et puis ensuite il se retrouve à Gisors et il y a toute une aventure autour de Gisors. Donc j'ai oublié de dire, je crois, Antonio Vivaldi, c'est les Quatre Saisons, toujours chez Gauthier Langros, encore une fois un éditeur qui fait de bonnes choses.
Donc, là je suis en train de le feuilleter, les reproductions sont magnifiques.
Voilà, non, c'est vraiment c'est de belles reproductions des tableaux de l'époque.
Très beau travail.
Donc Renaud Dourges, L'Ermite de Gisors, c'est chez Clovis, et toujours de 8 à 10 ans, de Jean Roland, qui est un auteur bien connu dans notre famille de pensée, de livres de jeunesse. Ça s'appelle « À quelle tournée ?», c'est chez Vent Sauvage, et c'est un livre qui est très intéressant puisque Jean Roland est très proche des petits chanteurs à la Croix de Bois, et c'est l'univers des chanteurs à la Croix de Bois. C'est une tournée des chanteurs à la Croix de Bois, il y a une petite aventure policière, mais c'est la découverte de la vie...
C'est contemporain ?
C'est contemporain, voilà. C'est la découverte de la vie des chanteurs à la Croix de Bois, et un peu de leur histoire, de ce qu'ils font quand ils font des tournées l'été, hein, puisqu'ils vivent, ils sont dans une école, qui est l'école des chanteurs Croix de Bois, et donc pendant l'année, et puis pendant l'été, ils font une grande tournée, et il explique comment se passe.
Je connais un jeune homme qui va certainement vouloir lire ça, encore voilà. qu'il a plus tellement l'âge maintenant.
Voilà. Oh, bah, c'est toujours, ce sont grand, des livres éternels.
Il a été chanteur à la Croix de Bois.
Donc... Voilà. Non, mais, donc Jean Roland a été contacté, enfin, les gens des chanteurs à la Croix de Bois lui ont demandé de faire la biographie du fondateur des chanteurs à la Croix de Bois. Donc il est très proche.
Monseigneur Maillet.
Voilà, il est très proche, il a bien connu Monseigneur Maillet, il a bien connu son successeur, il est très proche des chanteurs, et donc c'est vraiment un reportage, quasiment un reportage de l'intérieur autour d'une petite histoire policière.
Qui est le dessinateur, qui a de bons dessins. Hein.
Voilà, c'est un dessinateur que je ne connais
Loïc
pas.
Porcher.
Porcher, oui, que je ne connais pas bien, mais je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé un petit peu pour l'association Notre-Dame de Chrétienté, je crois. En tout cas, c'est des jolis dessins.
C'est joli, oui. Bonne qualité. C'est moderne, mais très joli.
Voilà. Alors maintenant, de 10 à 12 ans, donc nous continuons notre petit Nous montons dans l'âge. Alors, je propose un petit conte. Alors, c'est toujours difficile un conte de le positionner en âge. On l'a mis à 10 ans. Donc, c'est Armel Barguillet, Le Petit Chasseur de Vent. C'est chez Clovis. Donc, son précédent conte portait sur l'eau, la mer, tout ce qui était maritime. Et là, ça parle de la montagne. Hein. C'est un petit conte qui est l'amitié entre un enfant et un chamois. Et tout ce qui va se passer autour de la vie de la montagne, de la nature, etc. Voilà, Armel Barguillet, Le Petit Chasseur de Vent chez Clovis. Alors, un classique, mais il est toujours bon de revenir vers les classiques, c'est Amanda O'Neill, ça s'appelle Les Bateaux, c'est chez Nathan. Bon, Nathan n'est pas toujours un bon éditeur. C'est un très beau, très belle découverte des bateaux, que ce soit les bateaux de l'ancienne marine à voile, que ce soit les bateaux actuels, les porte-avions qui marchent plus ou moins bien actuellement, mais enfin, peu importe. Et puis, donc, les navires de plaisance, etc. Les, comment on appelle ça, les paquebots. Il y a à la fois de l'histoire, il raconte l'histoire du transport maritime, et puis des très beaux bateaux, des éclatés de bateaux, on voit les intérieurs de bateaux, etc. C'est un grand livre, c'est un grand livre album. Donc c'est Amanda O'Neill, c'est Les Bateaux chez Nathan. Et enfin, toujours de 10 à 12 ans, de Daniel Raffard de Brienne, qui est bien connu des auditeurs, donc il est
des
lecteurs du Libre Journal, bien sûr, avec le journal de Séraphin Grigneux, c'est ça?
Voilà, absolument. Voilà. Vous avez bien appris votre leçon.
Voilà. Mais je le lis malgré les apparences.
Rien me flatte.
Voilà. Et donc c'est Odile d'Alsace, c'est la vie de Saint Odile d'Alsace, tout simplement, une vie très 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 belle, très étonnante, et illustrée par Charlie Kieffer, et c'est aux éditions Clovis. Donc, Daniel Raffard de Brienne, Odile d'Alsace. Alors maintenant, nous passons aux 12 ans et plus. Donc, quand on dit 12 ans et plus, ça veut dire qu'on peut le lire même adulte. Hein. Ce sont des livres qui sont de grande qualité, mais il faut avoir au moins 12 ans pour les aborder, sauf si on est très, je dirais, avancé. Donc, c'est une réédition qui a été faite par nos amis Delor, des éditions Elor. C'est Paul Féval, la série bretonne, ouais, qui s'appelle en 3 volumes, La Fée des Grèves, À la plus belle et L'Homme de Fer. Donc, Paul Féval, hein, c'est vraiment...
Ça, c'est formidable.
C'est de la très bonne littérature. Et donc... comment dirais-je, Elor le propose soit en volume séparé, soit en coffret, le coffret des trois qui raconte cette petite saga bretonne. Donc Paul Féval, La Fée des Grèves, À la plus belle et L'Homme de Fer, trois volumes chez Elor. Toujours donc les 12 ans et plus, Fidelio et l'enfant perdu. Donc on parlait de guerre, on parlait de méchanceté, de cruauté. Donc Fidelio et l'enfant perdu, de Christine Sauty-Chalon, c'est chez Clovis. Et c'est donc une histoire qui se passe au moment du débarquement, au milieu de cette guerre. Et c'est une histoire de miséricorde, de charité. C'est une belle histoire entre soldats allemands, soldats américains, soldats canadiens français, donc un soldat allemand, un soldat canadien français et un jeune résistant. Et au milieu de tout ça, il y a un enfant dont la mère est allemande et le père est français, et qui, avec son âne, est un petit peu ballotté au milieu de tout ça. Une très belle histoire. Donc, Christine Sauty-Chalon, Fidelio et l'enfant perdu, chez Clovis.
Alors, monsieur l'abbé, Jean Desla, qui est patron d'émission Radio Courtoisie, apporte une rectification qui me paraît importante, effectivement. Je dis, le fondateur des petits chanteurs à la croix de bois n'est pas Monseigneur Maillet, contrairement à ce que j'ai dit. Il n'a été que le continuateur de l'œuvre qui avait été créée par Paul Berthier et Pierre Martin, qui étaient étudiants et qui ont créé les petits chanteurs et qui, à la fin de leurs études, ont transmis la mannequinerie à l'abbé Fernand Maillet. Et c'est quelque chose que Jean Desla a bien connu. Je pense qu'il devait être petit chanteur.
Voilà, mais c'est bien. Autant rectifier l'histoire.
Et la mère agitée ne rectifie rien. Elle indique simplement que le chœur montjoie chante à son restaurant tous les premiers mercredis du mois.
Exact.
Donc ne venez pas trop tard quand même, parce qu'il vaut mieux être là au début.
Il est toujours prudent de réserver.
Voilà. Alors, message personnel, messieurs, vous êtes tous invités à boire un verre tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez aller vous dépraver.
C'est une invitation par ce débit de boisson.
Voilà. Alors, nous continuons. 12 ans et plus. Merci. Alors, un petit peu plus âgé, c'est plutôt 14-15 ans. Un livre dont le titre peut paraître bizarre, mais qui est un livre très intéressant, qui s'appelle Araignée, mon amour, et qui traite d'un problème profond, grave, c'est-à-dire un jeune qui est attiré dans ce qu'on appelle une secte, mais en tout cas, ces groupes qui
groupes,
voilà. Non, pas intégristes. Non, mais c'est, bon, j'aime pas le mot secte, parce que c'est un mot piège, c'est un mot d'extrême gauche, mais je dirais ces groupes totalitaires, disons. Hein. Et donc, c'est, et en fait, ce jeune va être entraîné, puis
va en être délivré, et ça met en garde sur évidemment sur une approche, je dirais, où on agréable, parce qu'on est attiré là-dedans par des choses agréables. Donc c'est Araignée mon amour par Patricia Saint-Michel, et c'est chez Teki, et c'est un ouvrage qui est intéressant.
C'est bien Teki, il faisait des bons livres, ça fait longtemps que je reçois.
Ils font encore des bons livres, on travaille régulièrement avec eux, et c'est des éditeurs.
Pierre
Lemaire.
Lemaire.
Voilà. Alors je ne l'ai pas ici, mais Monsieur de Beckett l'a lu ce matin. Donc, ouais. Toujours pour les plutôt 14 ans, on l'a mis à partir de 14 ans, Louis Fontaine, Un enfant dans la guerre.
Ah, ça,
donc,
c'est
chez Clovis. Alors, je vais peut-être juste finir de deux minutes, puis on va peut-être te parler du Fontaine. Donc, c'est Louis Fontaine qui raconte qu'il avait 11 ans au début de la guerre. Il raconte sa guerre par les yeux d'un enfant. Et hors collection, c'est-à-dire c'est hors de tout âge, on en parlait tout à l'heure, on parlait de la bande de Gaza, etc. Eh bien, c'est chez Teki, du père Estrat, Pierre Estrat, Mariam sainte palestinienne, la vie de Marie de Jésus crucifié, donc une religieuse palestinienne, et c'est à la fois la découverte donc d'une belle vie d'une religieuse très sainte, et puis en même temps de ce qu'était cette Palestine avant l'arrivée des Israéliens.
Et ça permet aussi de se rappeler une dimension qui est essentielle pour comprendre ce qui se passe en ce moment là-bas, c'est que ce qui se passe en Palestine, c'est pas un affrontement des Israélites contre des musulmans.
Oui, non, il y a
beaucoup de chrétiens chez les Palestiniens et qui sont des gens spécialement intéressants.
La femme d'Arafat est d'origine chrétienne.
La fille d'Arafat est française d'ailleurs. Vous le savez ça?
Non.
Bah, puisqu'elle est née en France, à l'hôpital américain de Neuilly. Donc elle doit être américaine puisqu'elle est née à l'hôpital américain. Française parce qu'elle est née en France. Israélienne parce qu'elle vit en moitié en Israël, moitié en Palestine. Palestinienne par son père.
C'est riche.
Elle va avoir une vie intéressante, cette petite.
Voilà. Alors pour finir la petite présentation, donc aussi hors collection. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un album que nous venons de faire, donc les éditions Clovis. C'est Guy Lehideux qui a fait le scénario, Charlie Kieffer qui a fait les dessins, et c'est donc Sainte Thérèse de Lisieux, n'est-ce
c'est
pas?
C'est bien fait, parce que c'est dans la tradition
belles histoires, belle vie.
Voilà belle vie, tout à fait.
Nous allons donc nous orienter vers des dessins qui n'ont pas été faits. Là, c'était un coup d'essai. Des dessins qui n'ont pas été faits par Belles Histoires, Belle Vie, mais dans la tradition des Belles Histoires, Belle Vie.
Alors, même le dessin est dans ce style-là.
Oui, nous inscrivons dans une tradition. Rigaud, le grand dessinateur de Belles Histoires, Belle Vie.
Et le principe, il faut le rappeler, c'est des vignettes.
Des vignettes avec du texte en
dessous. C'est pas des bulles.
Voilà. C'est pas de la bande dessinée à proprement parler.
Sous chaque vignette, il y a une dizaine de lignes. C'est donc un texte qui est illustré par...
C'est une collection que nous lançons qui s'appelle Chemin de Lumière et qui donc reprend la tradition
qui seront les prochains alors.
Alors nous allons faire Padre Pio, nous sommes en train de faire Padre Pio, puis nous ferons Saint Pie V, nous ferons donc un certain nombre de choses, Don Guéranger, enfin nous ferons un certain nombre de saints de notre paroisse, disons. Les saints de notre paroisse. Voilà, donc je rappelle où on peut se procurer tous ces ouvrages, donc à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, 75 005 Paris. Je redonne le numéro de téléphone, le 01 43 25 36 67, donc librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e, où on peut trouver également toute la panoplie, si je puis dire, du cœur Montjoie à Saint-Denis, et où on peut trouver des libraires qui donnent du conseil, qui font du conseil pour le livre d'enfant, parce que le livre d'enfant, c'est aussi en rapport avec l'âge physique, l'âge psychologique, et il faut un conseil, n'est pas une mauvaise chose, et donc je recommande d'aller dans cette librairie pour se faire conseiller pour ses achats de Noël, parce que le libraire connaît bien son fonds, et donc il pourra vous dire, je vous conseille de prendre plutôt celui-là, etc. Mais on peut reparler quelques minutes, peut-être après la pause technique, je ne sais pas si c'est maintenant, du livre de Fontaine qui vient juste de sortir.
On va en parler maintenant, parce qu'il nous reste 5 minutes.
Voilà.
Je l'ai reçu hier, donc je l'ai lu ce matin, et je l'ai pris pour le feuilleter, enfin pour l'ouvrir comme ça, pour voir un peu ce que ça donnait, et je l'ai lu d'une traite. C'est un bouquin formidable, c'est un enfant de 11 ans, c'est un monsieur qui a maintenant 70 ans et qui raconte la guerre vue par l'enfant de 11 ans qu'il était, et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que c'est pas quelque chose d'écrit, je sais pas comment faire comprendre ce que je veux dire, c'est pas a posteriori, il fait pas rentrer dans son regard d'enfant ce qu'il sait de l'histoire maintenant. Donc il vit tout comme un enfant au moment où ça se passe. Et par exemple, quand sa mère quitte Paris avec lui, parce que les Allemands vont arriver. Il se précipite à la gare d'Austerlitz pour prendre le train pour partir en province. Et pour lui, il part en vacances.
Une sorte de vacances.
J'ai l'impression qu'il part en vacances.
Il envoie porter petite
voiture. Il est tout à fait excité. Il emporte ses deux petites voitures Solido avec lui. Et il est très, très excité. Puis alors, on sent bien qu'il trouve que les adultes ont quand même des comportements étranges. Quoi. Ils se battent, ils se montent dessus pour rentrer dans le train, ils s'écrasent contre les grilles. Enfin, et c'est vraiment très, très bien fait. Il y a des choses... des petits détails vécus, par exemple, il est dans l'île d'Oléron et il se promène avec des copains sur la plage et il trouve un bateau échoué, un bateau de guerre. Échoué sur la plage, totalement vide. Alors il monte à bord, vous imaginez, des enfants de 11 ans, le bateau est à l'abandon, il est tout neuf et il le fouille et dans le bateau il trouve des documents avec les tampons en rouge top secret. Alors en fait, il dit, c'est un bateau qui avait probablement été envoyé à volo pour échapper à l'envahisseur, donc on l'avait mis en mer puis on l'avait envoyé comme ça, mais on imagine à travers ce tout petit détail de rien du tout des gosses de 11 ans qui montent dans un bateau et qui trouvent des documents top secret. Il dit d'ailleurs, je les ai gardés longtemps avec moi. On imagine bien ce que pouvait être l'état de panique totale qui régnait dans notre pays au moment de l'invasion. Et je trouve que c'est un livre donc qui est remarquablement écrit, parce qu'il n'y a aucune afféterie, aucun effet d'écriture. C'est de la littérature très très simple, très lumineuse, très cristalline. On lit ça très facilement. Les aventures sont des aventures de tous les jours, des aventures d'enfants. Il n'y a aucune invention, c'est évident. Par exemple, ils arrivent sur la plage et ils découvrent au milieu des débris d'un bateau échoué, des cadavres à demi mangés par les crabes. C'est une ligne dans le bouquin. Il n'y a absolument aucune complaisance. Il dit, voilà, on a vu ça. Et c'est vraiment un livre formidable. Et je me disais que c'est exactement le livre qu'il faut offrir aujourd'hui aux enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans et plus, pour leur dire, voilà ce qu'a vécu
réellement
ton arrière-grand-père ou ton grand-père. Vraiment, à l'âge que tu as, quand tu te plains parce que la télé est en panne ou parce que la vidéocassette que tu voulais louer n'est pas disponible, eh bien... pense à ce que vivait ton grand-père à ton âge. Et en plus, l'enfant lira ça avec un immense plaisir parce que ça se lit très, très, très facilement. Et c'est une aventure comme le Club des Cinq, comme toutes les aventures d'enfance. C'est palpitant et passionnant.
Mais voilà, et en même temps, il y a toute une dimension, je dirais, politique qui transparaît à travers cette France ballottée, déchirée, puisque lui, il est anti-Pétain, anti-Laval et pro-anglais. Son père est plutôt pro-anglais. Ouais. Et sa mère est anti-anglaise. Oui. Donc, et dans la famille, alors, eux, ils écoutent la radio. Mais, alors, ils écoutent la radio. Alors, lui, il écoute Radio Londres, mais il écoute aussi Radio Paris un petit peu. Enfin, bon,
il y a tout un débat entre sa mère et son père sur le fait de savoir s'il faut dire famille, patrie, travail, ou travail, famille, patrie, ou famille, patrie, autre. Alors, la mère en tient beaucoup plus pour famille d'abord.
Voilà.
Travail ensuite, et la patrie, on verra s'il y a de la place. Tandis que le père, lui, c'est patrie, famille et travail.
Voilà, ancien combattant de 14, donc gravement blessé dans la guerre.
Non, à lire absolument et à offrir. Alors ça s'appelle
Un enfant dans la guerre de Louis Fontaine chez Clovis. Et ça vient juste de sortir, c'est arrivé.
La façon dont le deuxième conflit mondial est présenté tous les jours à la télévision, ou un jour sur deux, ne corrobore pas du tout.
Non, je comprends bien ce que dit
Monsieur Fontaine, c'est très politiquement incorrect. Ouais.
Radio Courtoisie.
Musique.
Yeah.
10h45 tout à l'heure, le livre du jour Trésors en poche d'Anne Brassy. Nous retrouvons tout de suite Serge de Beckett chez ses invités pour la deuxième partie de son libre journal. Très bonne matinée, il est 9h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 novembre 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Et officiers blancs, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident, et votre agonie cruelle, la honte de
Bien, ben on recommence ou on arrête là l'émission, je sais pas, qu'est-ce qui vous en semble, docteur? Vous avez l'air un peu fatigué, non? On parle de la cassette encore et puis on va passer aux choses sérieuses.
Il y avait une question pour Monsieur l'abbé Sellier. Pouvez-vous redonner, d'abord on nous dit l'éditeur Gauthier Langros, a toujours été un très bon éditeur. Dans les années 1930, il éditait La Semaine de Suzette et Bécassine.
Voilà, mais il est resté fidèle parce qu'il y a bien des... Vous savez, Bayard Press, qui est une maison fondée par les assomptionnistes dans un sens catholique et contre-révolutionnaire, qui édite Chair de Poule, 10 millions d'exemplaires vendus, donc que des choses de diablerie. Donc Gauthier Langros est resté fidèle à la fois une certaine qualité morale et une qualité de graphique qu'il faut reconnaître et qu'il faut soutenir, si je puis dire.
Et puis un auditeur vous demande, pouvez-vous redonner les références exactes de L'Épouvantail au grand cœur, car j'ai compris que c'était Gauthier Langros.
Voilà, c'est Gauthier Langros.
Moi, je veux dire, c'est le plus beau de tous, ceux dont vous avez parlé ce soir. C'est tout.
Bien. Alors donc, c'est Chant de France numéro 10. Là, on vient d'entendre la marche de Bruce. C'est un musique... Bruce, c'était un... la marche de Bruce, c'était ce que chantaient les soldats écossais de Jeanne d'Arc, non? C'est ça? Les écossais de Jeanne d'Arc? Et ils se battent pour pas parler. Ils viennent à Troyes et ils sont en train... Si vous voyez la gestuelle...
Une extrême timidité. Voilà, oui, la marche de Bruce était jouée lors de la délivrance d'Orléans, notamment, par les soldats écossais.
Qui ne voulaient pas rater cette occasion, ils foutent la pâtée aux Anglais.
Et qui ne l'ont pas raté, d'ailleurs.
Oui. Comment avez-vous choisi les airs? Parce que je vois Chant de Libération, bon, c'est un chant de la guerre de Cent Ans. Le départ pour Marignan, j'allais dire c'est 1515, mais non, puisque c'est un chant du 15e siècle, donc c'est pas 1515.
Les bandes de Guyenne, là, étaient des mercenaires.
Oui.
Marché pour le roi de France depuis le 15e siècle. Et là, ce chant était plus particulièrement chanté, affecté au départ pour Marignan, mais il était bien antérieur.
Monsieur de Charette, on connaît. C'est un chant de Paul Féval dont on parlait tout à l'heure.
Ben, je le découvre.
Ben oui, moi aussi, je vois qu'il est signé Paul Féval. Alors, c'est monsieur de Charette a dit à ceux dans ce livre,
c'est celui-là. Celui-là. Oui.
Cantique à Sainte-Anne, chant de tradition. Les Calfats, c'était un chant de marin, des chantiers navals.
Oui, le calfatage, c'était la réparation des navires à sec, et cette chanson déplore la disparition des calfats depuis que la tôle fait le bordage.
Et la Royale de Raffard de Brienne. Non, de Brienne tout seul, c'est pas...
Vous lui faites beaucoup d'honneur.
Oh ben, il le mérite, hein.
Mais oui,
on peut être partout.
Alors, ça c'est la face, la face, hein, ça ne veut plus rien dire avec les CD, puisqu'il n'y a qu'une face.
Si, il y a quand même deux parties bien distinctes. Ah bon, là, il y a cette partie qui est un peu historique.
Oui, et ensuite.
Et ben, la deuxième partie, elle est franchement Mili, franchement Afrique. Mais Afrique, Mili.
À la Volga, c'est Afrique.
Oui, vous ne saviez pas?
Ben non. Alors, peut-être que Franck pourra nous faire écouter un chant africain qui s'appelle la Volga. C'est le 12. Ben, c'est quand même pas. Aux légionnaires, oui, ça on connaît. Les Baddaf. Les Africains.
Baddaf, c'est en Russie. Hein.
Oui, bien sûr.
Dans le micro.
Baddaf, c'est un nom typiquement russe, d'ailleurs. C'est, les Africains. Algérie française, chant prudemment anonyme. La lune est claire.
Légion aussi.
Légion, sonnerie et aux morts anonymes. 19 morceaux. Alors, la sélection, elle a été faite. En vertu de quel principe? Parce que chacun arrive avec son petit tube en disant, moi je veux qu'on
seul,
fasse ça.
Un seul principe. Le chef.
Premièrement, article 1er, le chef a raison.
Oui.
Article 2, le chef a toujours raison. Article 3, quand le chef a tort, se reporter à l'article 1.
Ça s'appelle le centralisme démocratique.
C'est ça. Mais on n'est jamais arrivé à l'article 3, parce qu'on n'a jamais vu le chef avoir tort.
C'est impossible.
C'est bien, Dounaïev.
Ah, mais non, mais il y a une espèce de complicité entre Dounaïev et le chef qui est quelque chose d'ambigu. Je me demande s'il ne serait pas un peu faillot, Dounaïev.
C'est un bruit qui court, mais c'est maintenant rien.
Alors, on va écouter, si vous voulez, la Volga, chant africain.
Mais avant que le chef ne décide, il faut quand même préciser que chacun est tout à fait sollicité pour apporter son concours, donc avec en particulier des partitions ou des paroles que personne ne connaît. Ça s'est produit dans les albums précédents.
Tiens, j'ai acheté quelque chose pour vous chez un broc. J'ai une pile de vieilles brochures de Chant de France.
Si c'est pas cher, c'est bon.
Non, c'est cadeau.
Alors ça marche.
Cadeau, je ne les ai pas payés en plus. C'est pour ça que je voulais vous les affaires.
Les affaires reprennent.
Ok. Alors, la Volga, non mais sérieusement, pourquoi ça s'appelle la Volga? Qu'est-ce que ça a d'africain, la Volga?
Mais écoutez là.
Ouais. Ben voilà, donc on va faire ça.
Tout le long de notre vie, la
c'est là, je comprends, c'est typiquement africain, effectivement. Et on a un côté de jazzy là-dedans, presque un peu blues, on a l'impression. On voit toutes les plaines africaines ou les bords du Mississippi, on ne sait pas.
Le bouquet d'Ypres, lui, c'est plutôt une allusion au cogon belge, parce que Ypres était plus proche.
C'est plus belge que...
Oui, plutôt, oui.
Ça, c'est le
mais c'est malgré tout la face africaine, parce qu'on a décidé que c'était la face africaine.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bien.
On va pas se...
Non, mais c'est la face coloniale, c'est-à-dire
coloniale,
qu'en fait, voilà. Vous avez décidé de coloniser la Belgique, la Volga, ça, je vous souhaite quand même bien du plaisir.
Jusqu'où iront-ils,
hein? Jusqu'où s'arrêteront-ils? Bien, eh bien, écoutez, donc alors ce disque coûte cher ?
Pas assez, c'est, mais pas assez, c'est le trésorier qui parle. Non, pas assez cher. Il coûte 100 francs.
100 francs, c'est cadeau.
On vous a donné tout à l'heure l'adresse à Paris, donc librairie France Livre, où on se le procure facilement. Il y a également la librairie Duquesne, nos amis de chez Duquesne, au 27 avenue Duquesne. Et à Versailles, la librairie de la Protection de Marie en dispose aussi. Et bien entendu, vous venez dîner chez Madame Agité, Valérie, rue Campagne Première. Et les disques qui s'y trouvent également.
Si vous venez à 20 et que vous dépensez chacun 200 francs pour dîner, vous avez une réduction de 10% sur le prix du disque.
Tout se négocie. 8 à 10%.
Voilà. 8 à 10%. cela dit, toute plaisanterie mise à part, c'est très bien chanté. Là, vraiment, bravo. La Volga, c'est super. Pour un chant africain.
C'est une surprise qui fait plaisir à voir.
Voilà. Surtout à entendre. Merci, monsieur Chauvin, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire ce soir.
Non, mais j'étais venu pour voir si mes petits copains se débrouillaient bien et ça, c'est parfait. Philippe, très bien, j'en référerai au chef.
Bon. Peut-on ouvrir la rubrique Pense sur le Beketch et Pense sur ses invités?
Oui, bien
sûr. Monsieur de Beketch, les mots que vous employez ne sont pas courtois. Oui. La liberté de la presse, heureusement que vous l'avez. Sinon, vous ne pourriez pas vous exprimer ce soir.
On est entendu à la Palice.
Voilà.
C'est un auditeur de la Palice, non?
C'est une auditrice du Havre.
Ah, le Havre, pourtant c'est loin de la Palice.
Et alors, les vrais comiques ne rient pas, mais font rire. La situation ne demande pas votre attitude. Vous avez vraiment l'air de vous en foutre, et c'est plus que détestable et triste.
Monsieur, vous êtes fin psychologue.
Voilà, ça c'était pan sur le Beketch, et maintenant pan.
Hein? J'ai mal compris.
Je ne le relirai pas.
Non, mais c'est de la psychologie, parce que j'ai l'air de m'en foutre. C'est vrai que je m'en fous absolument, parce que je m'en fous radicalement, parce que je pense que tout ce qui arrive, c'est une bénédiction, parce que à force, on va être obligé de bouger. Et pire c'est, mieux ça vaut, en ce moment. Voilà, c'est la politique du pire. C'est ma position à moi. Pas forcé de l'adopter, on n'est pas forcé d'être d'accord, mais c'est moi qui ai le micro. C'est ça la différence.
Et alors, voilà. Le cœur montjoie a de très bonnes voix, mais il devrait prendre des cours de diction et mieux articuler, car on ne comprend pas les paroles.
Non, mais ça dépend à quelle heure c'est enregistré. C'est ça.
Néanmoins, c'est exact, on fait au mieux, c'est pas toujours très facile, on essaye d'articuler et d'inciter nos petits camarades à le faire. Néanmoins, comparé à ce qu'on entend dans le poste quotidiennement sur la modulation de fréquence, sauf sur Radio Courtoisie, bien sûr, on a peut-être encore un peu des progrès certes à faire, on n'est pas les seuls.
Et c'est plutôt mieux que chez les autres. Bon, attendez. J'ai perdu la cassette numéro 3 et 4 des Chants d'Europe, donc voilà quelqu'un qui vous aime. Voilà. Est-elle toujours éditée?
Eh bien
si
non.
Oui, où?
Elle n'est pas éditée, mais elle est disponible.
Il y a encore quelques exemplaires. Vous écrivez à la Béragité, 21 rue Campagne Première.
Vous y passez?
Eh bien entendu.
Quelle pub, c'est Paris 14e.
Il y a une chose, il y a...
avoir un café gratuit, vous, après le dîner.
Oui, mais ça m'énerve. Alors, je n'abuse pas. Non, une chose, il y a un grand disparu dans notre discographie, c'est Chants de France 9. Alors, il porte un autre nom, s'appelle Les Chants Traditionnels d'Enfants. Pour répondre à une question qui m'était posée.
Donc, pour la suite, ça passe du 8 au 9, c'est comme les albums de Gaston Lagaffe, où il y a un numéro qui manque. C'est la seule... Monsieur Clermont, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous venez nous parler de d'une association qui s'appelle...
Choisir la vie.
Choisir la
vie. CPA, choisir la vie.
Alors, non complet. Je vous avais dit que je vous recevais très peu de temps parce qu'on est, on est vraiment un peu tenu. Donc, si vous voulez me dire rapidement ce qu'est cette association, c'est une des organisatrices de la Grande Marche du 2 décembre. En quoi est-elle originale par rapport aux autres associations de défense de la vie?
Le point de départ de Choisir la vie, ça a été de refuser le remboursement de l'avortement par le biais du budget de l'État. Donc à partir du moment où le remboursement a été institué, donc au début des années 80, l'association a été créée et a encouragé ses membres à refuser donc de financer l'avortement par ce biais. Et chaque année, nous éditions une brochure qui donnait le pourcentage de l'impôt direct qui était donc alloué au remboursement d'avortement, et nous encouragions nos membres à réduire le montant de leur impôt de cette somme.
C'est un délit, ça.
Oui, alors...
L'incitation à l'enlèvement de l'impôt.
Oui, mais nous donnions la procédure à suivre, c'est-à-dire que nous encourageons les gens à faire un recours gracieux auprès du directeur départemental des impôts, et ensuite, si c'était refusé, un recours contentieux, etc., etc.
Et ça marche toujours.
Oui, ça continue toujours. Oui, oui, oui. Et cet l'argent qui n'est pas versé à l'État est déposé sur un compte bloqué qui est remis chaque année à une association qui défend les maires en difficulté.
Ah, c'est un très bon truc, ça, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Vous avez combien d'adhérents à peu près, si je suis très indiscret ?
Environ 15 000.
Ah oui, quand même, c'est sérieux. Là. C'est
oui, oui.
Ça devient un lobby, pratiquement.
Ben, disons que la cause est importante et dure à défendre, et plus on est nombreux, mieux on se porte.
Est-ce que c'est une association qui a des liens ou des attaches avec de caractère religieux ou confessionnel ou politique ou...
Alors aucun. Nous sommes une association donc de citoyens, ni engagé politiquement, ni engagé religieusement. Nous adhérons à l'Union pour la vie, qui regroupe 15 associations donc françaises. Nous avons également contribué à créer un magazine qui s'appelle Transvie et qui donne des informations du respect de la vie dans le monde entier.
Alors, je vous ferai revenir plus longuement, si vous voulez, dans une émission prochaine. Là, je voulais simplement que vous soyez là pour présenter votre association et puis pour... signaler qu'elle est organisatrice de la fameuse marche nationale du 2 décembre dont on a déjà parlé.
Oui.
Ce 2 décembre, c'est rassemblement place Joffre à 14h.
Oui. Métro école militaire. Hein.
Voilà, métro école militaire. Et on va vous donner votre adresse.
Donc, oui.
Choisir la vie, boîte postale 53 92 502 Rueil-Malmaison, CEDEX.
Oui.
Et vous avez un site internet.
Oui, il y a un site internet et un téléphone et un fax également.
Voilà. Le site internet, c'est très facile, c'est choisirlavie en un seul mot, .org. Non pas .org, mais .org comme organisation.
Oui.
Et les téléphones, 01 47 72 09 11. Pardon. 01 47 72 09 11. Et 01 46 97 76 81. 01 46 97 76 81, c'est le fax.
Oui.
Voilà. L'adhésion est de...
L'adhésion à l'association est de 100 francs par an.
Adhésion simple.
Adhésion simple.
Et l'adhésion compliquée, c'est
la vie. Oh mon Dieu. Oui, oui, oui. Donc nous espérons qu'il y aura beaucoup de monde à cette marche et l'enjeu est extrêmement
J'espère
important.
J'espère qu'il y aura plus de monde que ce soir parce que j'ai eu des messages là, d'auditeurs qui nous ont fait savoir que l'esplanade des Invalides n'avait pas été couverte.
Oui, c'est-à-dire que ce rassemblement a été annoncé très tardivement.
Trop tard, hein.
Oui.
Voilà, je me demande s'il y avait quelqu'un d'autre en dehors des organisateurs. C'était un peu la fameuse histoire des organisateurs de Tombola au profit des organisateurs de Tombola.
Alors bon, que là, nous avons lancé cette affaire il y a, disons, un mois et demi. Donc,
là, il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé.
Oui, oui, oui.
Donc, le 2 décembre, on pourra rencontrer les membres actifs de votre association.
Ah, tout à fait.
Place Joffre, donc, au métro, école militaire, à partir de 14h.
Oui, à partir de 14h.
Et puis, on peut d'ores et déjà prendre contact avec vous. Donc, comme je vous l'ai dit, vous reviendrez pour approfondir ces questions très intéressantes du combat que vous avez engagé, le combat à travers les recours gracieux devant l'administration fiscale. Oui, c'est quand même une idée forte.
Ça, c'est le point de départ. À la suite de ça, nous avons mené une action très, très constante et très forte contre le RU 486 et qui a abouti il y a 3 ans et demi au retrait de Roussel Uclaf et de sa maison mère Euxt du RU, qui a vendu pour un franc symbolique à une association donc qui a continué. Mais au moins, ce grand groupe s'est retiré complètement de cette affaire.
Merci, M. Fernand. Et puis, à très bientôt. On prendra date pour une nouvelle émission.
Merci beaucoup.
Docteur, est-ce que vous voulez, pour vous mettre en forme, qu'on écoute encore un petit bout du cœur?
Oui. Quelque chose d'un peu péchu.
Un peu péchu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien péchu?
La lune éclaire, c'est une chanson voilà, de parachutiste de la Légion, ça.
Ça, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait écouter le 17, mon cher Franck, s'il vous plaît? C'est formidable. On va l'avoir.
La lune éclaire, la ville là.
C'est vrai que c'est roboratif. Hein.
Très roboratif.
C'est beau. Hein. Et il chante bien.
Ça me rappelle le premier rep qui était chez moi à Alger, voilà. La première compagnie.
Alors, docteur Plantet, il faut d'abord faire une mise au point, si j'ose dire. Hein. On va parler de questions de l'ordre de la
santé,
de l'hygiène alimentaire.
Et relativement brûlante.
Voilà. Mais il est évident que vous venez là exclusivement pour présenter l'état
oui, c'est
de
ça,
la question. Et qu'il ne s'agit pas de consultation médicale.
Absolument,
à distance,
c'est
il ne s'agit
ça.
Pas de recommandation.
On
ne va pas vous apporter le.
C'est un exposé théorique.
La panacée, c'est pas l'objet. Hein, c'est un exposé théorique sur la façon dont fonctionne le système. Et la première question, puisqu'on va parler d'hygiène alimentaire.
Oui,
des maladies liées du monde civilisé.
Voilà,
les maladies liées donc à l'alimentation, ou prétendument liées à l'alimentation. Je voudrais lire un bout de texte que je republie dans le livre journal qui vient de sortir ce matin, et que j'avais déjà publié il y a très longtemps, mais à l'époque on avait beaucoup moins d'abonnés, et je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, ce texte. C'est le texte d'une conférence qui a été donnée par Rudolf Steiner, le 13 janvier 1923 à Dornach. Alors, je signale à mes amis antignostiques que c'est pas la peine de téléphoner pour dire que Rudolf Steiner est l'incarnation de Méphistophélès. Bon, tout ça, on le sait. Mais enfin, voilà quand même ce qu'il écrivait, ce brave homme, ce qu'il disait en 1923. Imaginez qu'il prenne au bœuf l'envie de se dire « J'en ai assez de me promener et de faire qu'arracher ses herbes. Un autre animal pourrait le faire pour moi. Je vais de ce pas manger cet animal. » Voyons, le bœuf se mettrait donc à manger de la viande, il est pourtant capable de fabriquer lui-même de la chair, il dispose des forces qui lui permettraient de le faire. Que se produirait-il donc si, au lieu de végétaux, le bœuf se mettait à manger de la viande? Toutes les forces qui pourraient produire de la chair en lui se trouvaient donc désœuvrées. Prenez n'importe quelle usine devant produire une chose quelconque et supposez que vous ne produisez rien, mais que vous mettiez toute l'usine en marche, imaginez un peu le gaspillage de forces qu'il pourrait y avoir, une force considérable serait donc gaspillée. Or, messieurs, La force qui est gaspillée dans le corps de l'animal ne peut pas se dissiper comme ça. Le bœuf déborde de cette force, elle fait en lui autre chose que transformer en matière carnée les matières végétales. Cette force demeure, elle est bien là, elle agit autrement en lui, et ce qu'elle fait produit en lui toutes sortes de déchets. Au lieu de chair, ce sont des substances nuisibles qui sont fabriquées. Le bœuf se remplirait donc de toutes les matières nuisibles possibles s'il se mettait soudain à être carnivore. Il se remplirait notamment d'acide urique et d'urate. Or, l'urate a quant à lui des habitudes particulières. Les habitudes particulières de l'urate sont d'avoir un faible pour le système nerveux et le cerveau. Si le bœuf mangeait directement de la viande, il en résulterait une sécrétion d'urate en énorme quantité. L'urate irait au cerveau et le bœuf deviendrait fou.
C'est très
donc,
fort, ça. Hein.
En 1923, Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, avait prophétisé scientifiquement la maladie de la vache folle.
Il faut savoir, pendant que vous lisiez le texte, je pensais que un des grands progrès dans le traitement de la maladie maniaco-dépressive bipolaire, c'est-à-dire des oscillations d'épisodes de dépression et d'euphorie.
D'abattement et d'excitation, d'euphorie. Hein.
Un des grands progrès, c'est le traitement à base de lithium. Or, c'est un Australien dont tout le monde a oublié le nom, bien entendu, le véritable inventeur, qui a mis au point le traitement sur la base que les urates étaient des facteurs déclenchant des maladies mentales. Et il a donc essayé le lithium, qui sous le nom en France de lithiné du docteur Gustin, par exemple, dans toutes ces bonnes familles, était un uricosurique. Donc c'est comme ça qu'il a trouvé que le lithium stabilisait, et notre ami Rudolf Steiner avait 25 ans d'avance en raisonnant uniquement sur les principes.
Sur les principes.
Sur les principes.
Hein. Et vous voulez dire qu'à propos des lithinées, les fameuses lithinées du docteur Gustin, dont j'ai fait mes délices pendant des années, parce qu'on n'avait pas de fric pour acheter de l'eau minérale gazeuse, ça a un effet sur la santé mentale.
Ah, c'est clair. Il est évident que le peu de lithium qu'il y avait, enfin, la quantité de lithium qu'il y avait dans l'unité du docteur Gustin stabilisait le système nerveux central. C'est la même chose.
C'est peut-être pour ça que je ne suis pas devenu complètement fou, alors.
C'est vrai, c'est possible. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que, par exemple, on a découvert qu'à San Antonio, une petite ville du Texas, vous voyez, qui n'est pas très loin de Davy Crockett, là, les habitants sont réputés pour un caractère joyeux, affable, etc. Et on s'est aperçu que les sources San Antonio contenaient une quantité de lithium considérable.
Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Mais alors, comment ça fonctionne techniquement?
Alors, personne ne sait exactement, mais le plus vraisemblable, c'est que la cellule humaine fonctionne comme un accumulateur avec du sodium et du potassium. Quand la cellule parle, le sel rentre dans la cellule. C'est donc comme une usine marémotrice. Il y a une vague de sel qui rentre. Et il ne faut pas qu'elle y reste, parce que quand elle y reste, c'est la mort. Ça doit être donc rejeté par des pompes. Et ensuite, le potassium reprend la place et ça établit l'équilibre électrique. Apparemment, le lithium, qui est juste à côté du sodium dans la classification périodique des aliments, modifie les potentiels d'action, modifie l'électricité du neurone et le rend moins excitable. À ce moment-là, en substituant au sodium le lithium, on a une moindre probabilité que les cellules parlent. Et quand il y a un cross-talking de 200 milliards de cellules, c'est là que ça peut
tout
donner
le monde parle
des
en
choses,
même temps.
Voilà.
Alors là, ça provoque des
très mauvais,
des divagations,
très mauvais pour la santé. On veut acheter des avions, sortir dans la rue, etc. Il y a d'autres possibilités, d'autres qui font intervenir la sérotonine, des neurotransmetteurs, des prostaglandines et machin, mais celui-ci est le plus simple et probablement le plus proche de la réalité.
Alors on rentre vraiment dans le cœur du sujet tout de suite, parce que ce qu'on voit, ce que je crois comprendre à travers cet exemple du lithium, qui est un produit de base
c'est
vraiment
tout
élémentaire,
à fait banal,
c'est que en fait on a l'impression qu'on a artificiellement compliqué les traitements qu'on pourrait économiser par une hygiène de vie simple.
C'est clair. L'axe central de réflexion, c'est sur les maladies, la principale peste qui sont les maladies cardiovasculaires, le cancer et les allergies, qui sont, si vous voulez, pour connaître les mots qui nous accablent, il faut connaître le nom des grands instituts américains de recherche, National Institute of Cardiovascular Disorders, etc. Bon. Les maladies cardiovasculaires type mort subite, celles que tout le monde craint, l'infarctus du myocarde, étaient pratiquement inconnues avant la guerre de 14. Le professeur Paul Dudley White, qui était une des gloires de la cardiologie américaine, qui était le cardiologue personnel du président Eisenhower, et qui en plus était un ami du Padre Pio, parce qu'il avait assisté à un très grand congrès à la Casa Solaveria de la Sofranza, à l'hôpital de... Professeur White dit... Il dit que jusqu'à la date de... Je voudrais vous donner les chiffres très exacts. Jusqu'en 1927, c'est-à-dire il a commencé à exercer la médecine en 1920, jusqu'en 1927, il n'avait pas vu un cas d'infarctus du myocarde. À partir de 1927, dit avant 1920, l'infarctus du myocarde était rarissime. Et surtout, il faut ajouter, les gens se gorgeaient de beurre, de lard,
de sindoux,
de rillettes, de machins, de patins, de confins, etc.
Et il n'y avait pas de réfrigérateur,
il n'y avait pas de réfrigérateur.
De sous vide.
On en reparlera parce que c'est Paul Dudley White dit quel est le mystère qui est apparu pour qu'on observe une montée à une vitesse absolument invraisemblable de ces infarctus du myocarde, et d'autant plus étrange que plus les multinationales pharmacologiques développaient des médicaments, et plus la maladie tuait. Hein, c'est-à-dire qu'on observe, on a observé aucun ralentissement dans le développement des maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, il faut revenir aux chiffres dont on parlait ensemble autrefois, c'est-à-dire le gain réel de durée de vie.
Ça, on va en parler parce que c'est spectaculaire. Il semble que... À propos des maladies cardiovasculaires, il y a quand même... Dudley White dit, jusqu'en 27, c'est très 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 rare.
Rarissime.
Et puis à partir de 1927, donc date précise.
Voilà, hein, c'est ça.
Ça augmente dans des proportions extraordinaires.
Extraordinaire. Et...
Alors, il pose la question, lui demande d'où cela peut-il venir, qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce
qu'on approche une explication?
Alors, vous savez que l'explication politiquement, scientifiquement correcte depuis 1950, c'est d'incriminer le cholestérol et le régime alimentaire.
Vous dire, dit toujours, il y a hypercholestérolémie, c'est comme ça que ça s'appelle?
Oui, c'est ça.
Hypercholestérolémie, donc un excès de cholestérol dans le sang qui provoque des plaques dans le système veineux et artériel.
Lequel se bloque, ainsi
de suite. Lequel se ferme et provoque des...
Alors, il faut savoir quand même que les plaques en question, elles ne comportent que 0,5% de cholestérol. Tout le reste, c'est du calcium. Des sérosides, un peu de triglycérides et de la fibrine.
Triglycérides, c'est l'alcool, hein.
L'alcool.
On dit que c'est. Les médecins, quand ils vous trouvent des triglycérides.
Oui, ça veut dire que l'organisme a du mal à traiter, voilà. Non. Mais la plaque d'athérome elle-même comporte une très modeste fraction de cholestérol. Tout le reste, c'est du calcium. Or.
Du calcium, c'est-à-dire
du. Calcium, c'est-à-dire du lait, des yaourts, de la pierre, hein. Or, la tendance actuelle, il suffit d'aller faire un tour dans les grandes surfaces, c'est une consommation exagérée de lait.
De
l'État. Qui est un sujet de l'État, un sujet dont il faudra parler, parce que ces laits sont trafiqués comme c'est pas possible, et que vraisemblablement, le lait n'est pas un aliment qui est fait pour l'être humain. Le lait est fait pour engraisser les veaux. Hein, il n'est pas fait, qui engraisse effectivement extrêmement vite, puisqu'ils prennent 500 kilos en un an, alors que chez l'enfant, bien moindre. Et les animaux eux-mêmes, les laitiers, ne consomment pas leur propre lait, hein, pas plus que les animaux les plus puissants, comme disait un auteur américain dans le Journal of Pediatrics. Ni le taureau, ni l'éléphant, ni le cheval, qui sont quand même des animaux costauds, il dit, j'ai rarement vu, sinon jamais, un cheval boire un verre de lait. I've seldom seen a horse drinking.
C'est vrai que c'est pas, même dans les cirques, c'est
Assez rare. Alors, on a bien l'impression, je relisais avant de venir le Goodman et Gilman, qui est la Bible de la pharmacologie américaine, sur le chapitre des hyperlipémies et de leur traitement. C'est assez extraordinaire parce que sur les budgets engagés, sur les milliards de dollars gagnés par les multinationales, sur ce lavage de cerveau colossal sur les médecins dont je suis persuadé que 90% seraient incapables de dessiner la formule développée du cholestérol, cette espèce de gigantesque campagne où dans le bouquin ils disent il faut absolument traiter, avoir une attitude agressive, les résultats du traitement occupent une demi-page, même pas quoi, 3/5 de la page, fondée essentiellement sur une étude scandinave douteuse, et la première phrase du chapitre dit « Il n'est pas possible pour le moment de donner un avis sur l'effet à long terme de ces traitements ». Par contre, dans les effets secondaires, vous avez beaucoup plus de données.
Je voudrais qu'on vienne, c'est très important, il faut que ça soit parfaitement clair. Donc, le cholestérol qui est incriminé dans les cas d'obturation
voilà.
des vaisseaux sanguins. N'est responsable que de 0,5% de la matière
obturante. Exactement.
Et le reste, donc 95%
c'est du calcium, et le reste des sérosines, de la fibrine et des triglycérides et quelques bricoles.
Et donc, sur les 95% de calcium sont apportés à l'organisme par les laitages.
Oui, alors, parallèlement, on vous dit... là, on diverge un peu, mais enfin, on est obligé, le sujet nous impose de passer un peu du coq à l'âne. Hein. Parallèlement, on vous encourage à vous bourrer de lait pour lutter contre l'ostéoporose, ce qui est déjà hyper douteux. Parce que les femmes japonaises qui ne boivent pas un millilitre de lait ont le taux de fracture d'ostéoporose le plus bas du monde. Hein. Et que vraisemblablement, le calcium qu'on donne par litre entraîne une dégradation du calcium parce que la régulation du système calcique est extrêmement subtile, elle est réalisée par les glandes parathyroïdes, et quand il y a trop d'annexés, l'organisme est un système qui est tout le temps en train de corriger les déséquilibres. Quand il y en a trop, l'organisme va réagir en sécrétant ou en stoppant une hormone pour entraîner un état d'hypocalcémie. Et en même temps,
c'est-à-dire de manque de calcium.
En même temps, le calcium est lié par un rapport très étroit avec le magnésium, et la moindre modification de ce rapport est capable d'avoir des répercussions considérables, notamment sur des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans les secrets les plus profonds de la matière. Autrement dit, les produits qu'on achète comme savoir au supermarché, au calcium, le lait, etc., ou dont on a l'impression que c'est un remède. Banal, hein, toutes ces gélules qui traînent à droite, à gauche, modifient fondamentalement des processus dont on n'a pas idée. Modifier l'acétylcholine, c'est changer une substance qui est presque mystique. Hein. Donc, en fait, les conseils diététiques actuels, c'est absolument n'importe quoi. Surtout que le lait lui-même a subi des transformations dont on pourra reparler une fois qu'on aura développé un peu cette question du cholestérol. Mais il faudrait peut-être rappeler, parce qu'on a vraiment l'impression, quand les patients disent « j'ai pas de cholestérol », que c'est comme un microbe.
Oui, absolument. Comme... Oui, alors, justement, la question que je voulais vous poser à ce moment-là, c'est... Vous avez parlé de l'acétylcholine en disant « c'est une substance presque mystique
oui. ».
On sait, parce que vous êtes déjà venu dans cette émission, qu'on en a déjà parlé, que vous avez un regard de croyance sur,
oui, c'est clair.
Sur la médecine, et que donc, pas seulement sur la médecine, mais sur les phénomènes de la vie.
Oui.
Et que donc, je crois qu'on peut dire qu'il est assez invraisemblable que les phénomènes de la vie soient fondés... laisse la place, avec l'accord du créateur, à des choses aberrantes. Bon. Alors ma question c'est, si le cholestérol c'est aussi mauvais que ça, pourquoi le bon Dieu laisse-t-il le cholestérol rentrer dans le corps ?
Alors il suffit quand même pour résoudre la question, et comme toujours les évidences sont tellement aveuglantes que c'est comme si on vous disait que l'air qu'on respire est pas bon parce qu'il fait gonfler les poumons. Le cholestérol c'est une molécule qui, d'une part, constitue presque entièrement le cerveau, hein, en rentrant dans les phosphatidylcholines, donc c'est une molécule absolument fondamentale. Deuxièmement, c'est un tracteur de molécules, c'est-à-dire que le cholestérol, c'est comme un groupe de transport qui va chercher à la périphérie certaines substances et les amène au centre. Troisièmement, le cholestérol, c'est un cycle stéroïdien, hein, le cycle cyclopentanophénanthrénique, c'est celui de toutes les hormones mâles, femelles, et des hormones de la corticosurrénale. Hein. La cortisone, c'est un cycle hormonal apparenté au cholestérol. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Les yeux sont des boules de cholestérol. Et le cholestérol fabrique les selles biliaires, ce qui a une importance énorme. Et moi, j'ai vu beaucoup de patients traités par des médicaments qui font baisser le cholestérol, ayant eu l'ablation de la vésicule biliaire. Parce que le cholestérol est un élément tellement important pour l'organisme qu'en fait il dépend très peu de l'alimentation. Il est fabriqué par le foie à partir de 13 molécules d'acétate et il y a tout un système. Et le cholestérol, fonction très importante, donne la fluidité aux membranes cellulaires. C'est-à-dire c'est une graisse qui permet aux membranes cellulaires d'être fluides et cette fluidité est un des caractères essentiels de la longévité. Autrement dit, si vous voulez, dans le cadre d'expérimentations pointues, évaluer la qualité d'un cerveau, voir à quel état de vieillissement il est, on mesure avec des sondes biochimiques la quantité de cholestérol et la souplesse des membranes cellulaires. Et ce qui est étonnant, c'est que d'une part, dans les maladies où il y a vraiment un cholestérol bas, comme l'ataxie de Friedreich, les gens sont paralysés, bon, ils ne bougent pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai repéré dans la série de réactions chimiques qui conduisent depuis l'acétate jusqu'au cholestérol, il y a une étape. Il y a un produit qui apparaît dans la synthèse, c'est la formule du caoutchouc synthétique. C'est quand même extraordinaire. Hein, c'est un clin d'œil du créateur qui dit, vous avez vu ? Je vous ai rendu soupe comme ce que j'ai mis dans les VA. C'est avec trois fois rien, hein, le créateur fabrique n'importe quoi. C'est comme disait Joseph de Maistre, là, je crois qu'on en parlait l'autre fois, il disait, pour se représenter la biologie humaine, il faut penser à une horloge dont tous les ressorts, les rouages changeraient tout le temps de forme et de position, mais qui donneraient tout le temps leur juste. C'est pour ça que sur 15 millions d'expérimentations, vous avez 15 millions de résultats divergents.
Bon, mais pour revenir à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, moi qui suis un gros consommateur de journaux féminins, j'ai lu 50 000 fois dans les journaux féminins l'explication qu'attention, il y a le cholestérol, il ne faut pas se tromper, il y a le bon cholestérol, puis il y a le mauvais cholestérol. Alors ce qu'il faut faire baisser, c'est le mauvais cholestérol, mais il faut garder le bon.
Ceci repose sur des notions purement statistiques. C'est-à-dire qu'on a mesuré le cholestérol dans le sang de gens qui avaient des risques cardiovasculaires et avec des manipulations statistiques, vous arrivez effectivement, vous arrivez aussi avec un raisonnement comme ça à dire quand il y a des hold-up, on trouve des gendarmes. Donc il y a les mauvais gendarmes qu'il faut faire disparaître. Et les bons gendarmes, c'est ceux qui désincarcèrent les voitures, par exemple. Oui, hein, parce que le cholestérol à basse densité... Hein, si c'est peut-être le mauvais cholestérol pour la firme Trucmuche qui vend ses produits par centaines de millions de machins, mais dans l'organisme, il a un rôle très important, hein, que vous lisez dans les gros traités de 1500 pages en anglais et en allemand.
Mais cela dit, quand on prend deux groupes de 1000 personnes, et qu'il y a un groupe auquel on fait suivre un régime à bas taux de cholestérol, et un autre groupe qu'on bourre de Saint-Doux et tout, il y a 50 fois plus de crises cardiaques là que...
Unfortunately not. Alors là, il y a quelques histoires qui seraient rigolotes si elles n'avaient pas entraîné la mort de personnes. C'est que c'est jamais très drôle. Un des plus intéressants que parmi ce que j'ai trouvé, c'est... Alors avant d'introduire ça, je voudrais citer des propos du Sergeant Captain Cleave, qui était directeur de the British Research of Medicine.
C'est quand même... Il n'y a qu'en Angleterre que le directeur du service de recherche est un capitaine.
Ah oui, c'est très, très britannique, indeed. Alors il dit, c'est quand même, il a dit, it's the most logical thing, la chose la plus grotesque au monde, c'est d'expliquer une maladie moderne par un régime qui a 4000 ans d'ancienneté alimentaire et qui n'a rien donné jusqu'en 1920, jusqu'en 1927. C'est-à-dire, on vous explique les morts de maintenant par l'emploi de graisse animale pour laquelle le corps humain est fait, il est designed for, hein, il est construit pour s'alimenter avec ces substances. Et brusquement, à partir de l'année 1927, ce régime devient épouvantable et il faudrait le remplacer par des huiles végétales qui étaient indisponibles à l'époque parce qu'il n'y avait pas les presses hydrauliques. Alors, il dit, comment vous allez expliquer qu'on dépend d'un facteur qui n'existait pas pendant 2000 ans à l'époque où les gens étaient en pleine santé?
Mais c'est-à-dire que, c'est peut-être aussi le système qui faisait, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de graisse végétale, les hommes mangeaient des graisses animales. À partir du moment où les graisses végétales sont apparues, le créateur, dans sa grande mansuétude pour les industriels de la graisse végétale, a décidé que les graisses animales allaient provoquer des maladies. Hein, c'est pas vraisemblable.
Ça me paraît un peu capillotracté, comme on disait dans l'armée. Mais je voudrais vous citer un exemple qui est à propos des groupes de comparaison qui est assez extraordinaire. J'en ai trois là, à vous citer. Le premier, c'est les Irish Brothers, c'est-à-dire une très grande famille irlandaise dont une partie est restée au pays. Et une autre partie a émigré vers Boston. Et donc, c'est tout à fait le genre de dispositif expérimental dont raffolent les chercheurs américains. Hein, parce que c'est très mathématique, très statistique, etc. Alors donc, au pays, dans l'île, ils continuaient...
Whisky, patates,
eggs and bacon, and whatever, etc. Et là-bas, ils utilisaient ce qu'ils appellent the prudent diet, c'est-à-dire low fat, low cholesterol.
Hein. Pas de graisse, pas de cholestérol.
Résultat, la mortalité était 8 fois plus importante aux États-Unis que chez les Irlandais restés au pays. Alors le deuxième exemple, c'est triste.
C'est désolant.
C'est triste. Hein, mais le deuxième exemple, c'est l'exemple du professeur, du docteur Jolifet, partisan du dogme des huiles polyinsaturées qui sont pas les oméga 3, hein, c'est-à-dire c'est le maïs, c'est le tournesol, le soja, etc. Donc, persuadés de détenir la vérité autant qu'ils la détiennent pour bombarder les Serbes, ils mettent au point deux groupes. Comme d'habitude, un groupe de contrôle, les gens mangent ce qu'ils veulent, et un groupe qui a la Prudence Diet du docteur Jolifet, etc. Et effectivement, le groupe traité voit son cholestérol baisser. Oh, c'est pas grandiose, hein, ça passe de 2,45, ce qui est un chiffre qui était, quand j'étais externe, c'est tout à fait banal, à 2,25. Alors, donc, les types sont fiers comme tout. L'ennui, c'est que dans le groupe tétré, il y a 8 morts, enfin, il n'y a que des morts, et le groupe de contrôle qui tous les matins se tape ses eggs and bacon, pancakes, etc., pas de morts. Hein, voilà. Ensuite, il y a l'expérimentation de Rosa, un petit bled près de Philadelphie, je crois, peuplé à 100% d'Italiens, ayant gardé la cuisine... Enfin, vous connaissez comme moi la cuisine italienne, c'est pas uniquement de la salade de concombre, quoi. Ah, hein, bon. Et la différence de mortalité entre ces Italiens et les Américains du coin était également colossale. Alors, ce qu'il faut savoir, je reviens à l'expérimentation de Jolivet, parce que c'est extraordinaire, ce truc-là. On lui dit alors... Ah, il dit oui, mais c'est parce que on n'a pas eu assez de sujets. Si on avait eu 1 million de sujets, on aurait prouvé qu'on avait raison. Là, ça me rappelait l'histoire du commerçant qui perd sur chaque article, mais qui se rattrape sur l'ensemble.
Sur la quantité.
L'ennui, c'est qu'ils ont commencé cette expérimentation, mais... Le professeur Jolifet est mort d'une crise cardiaque.
Voilà. C'est une mauvaise publicité pour son truc.
Et ainsi qu'un autre, hélas, le pauvre, le docteur Plutikin, qui avait, à l'époque où j'étais aux États-Unis, il avait mis au point un régime célèbre avec 7% de corps gras. Les gens maigrissaient. Et Plutikin est mort d'une leucémie compliquée de cancer, et ça faisait très longtemps, hein, qu'on continue, qu'on sait qu'un cholestérol bas... est un facteur de risque cancéreux, notamment du côlon, hein, et d'état dépressif. Hein. N'empêche que jusqu'à sa mort, cet homme-là a fait... Alors c'est affreux, mais l'auteur d'un des livres que j'ai lu dit il a maintenant les artères les plus clean de tout le cimetière. Hein. Enfin, ça m'a paru un peu dur, hein, bon, que Dieu ait pitié de son âme, mais des expérimentations comme ça, on pourrait en aligner sans arrêt. Là, mais il y a une très bonne preuve, c'est que dans le Goodman et Gilman dont je vous parlais tout à l'heure, le chapitre sur la preuve, hein, there is a need for aggressive treatment. Il faut être agressif, dit l'auteur des lignes. Or, il ne propose qu'une seule expérimentation d'un médicament qui s'appelle la lovastatine. Et la première expérimentation qui avait eu lieu en Finlande, parce que les Américains aiment bien expérimenter les que chez eux.
Ouais. Hein.
Et il y avait eu donc, ça portait sur 5000 personnes, il y avait eu plus de morts dans le groupe traité que dans le groupe non traité. Pas beaucoup plus, mais plus quand même. Hein. Et ça avait entraîné une controverse considérable dans le journal qui a échappé à beaucoup, parce que la controverse était dans la partie des lettres à l'éditeur qui sont dans un anglais plus difficile et que les gens ne lisent pas en général, parce que c'est pas des tirés à part. Et dans ces lettres à l'éditeur, il faudrait toutes les traduire en français, où il y avait des professeurs de faculté qui disaient « Vous êtes complètement fous, quoi. Hein. Vous allez bloquer des molécules sans avoir la moindre idée de ce que ça peut avoir comme conséquence. » Parce que il faut savoir que les chiffres de cholestérol, hein, quand vous voyez arriver les chiffres, quand on fait une prise de sang au patient, vous voyez, par certains laboratoires, normal, 2 ou inférieur à 2 en milligrammes par litre. Hein. Et à côté, il y a marqué « Consensus international ». C'est-à-dire qu'on a fait voter des gens.
C'est incroyable.
On a fait, moi, quand j'étais externe, à 2,80 g, tout le monde s'en foutait. Il y avait des vieillards provençaux et parisiens qui, à 92 ans, comme m'avait dit je ne sais pas qui, l'ami Louis, ça devait être un bloc de cholestérol qui est à la tête. Tout le monde s'en foutait. Et progressivement, ces chiffres ont été baissés, parce que si vous devez traiter les gens à partir de 2 g, c'est tout l'Occident que vous traitez. Donc les marchés sont absolument gigantesques.
Ah, c'est ça, voilà. J'allais
les
vous dire,
marchés
mais pourquoi,
sont gigantesques, voilà. Gigantesques. Ouais. On sait par exemple que, on reviendra toujours à ces histoires d'acide gras marin. Hein. On sait que dans les îles à Okinawa, chez les Esquimaux, il y a surtout chez les Esquimaux, en Crète, hein, comme l'a montré Serge Renaud, dans le midi de la France, en Italie, et même dans l'ensemble de la France meurt beaucoup moins de maladies cardiovasculaires pour le moment que les États-Unis. C'est sans commune mesure. Et ces travaux ont montré que c'était justement la qualité des graisses qu'ils avaient, qui était supposée être nocive, qui les protégeait. On tenait donc là la clé du mystère, on la tient toujours, c'est évident. Mais il est quand même extraordinaire que le produit qui était sur le marché, dont on sait qui sauve la vie. Moi, j'ai vu les triglycérides diminuer de 80% en 5 jours, comme ça. Ce produit n'est plus remboursé par la Sécurité sociale. C'est hallucinant. Alors que...
Là, c'est des petites gélules d'oméga 3.
Voilà, je ne veux pas dire le nom de la spécialité, mais enfin, c'est des oméga 3 avec de l'acide eicosapentaénoïque. Enfin, il y en a deux dedans. Tandis que... On vend ou on laisse vendre les margarines, l'ensemble des margarines, c'est des graisses épouvantables, comme dit l'auteur d'un article toujours très humoristique en anglais, il dit « Oh, elles se conservent très bien, elles restent des années sur les étagères, elles se conservent même tellement bien que même les mouches et les microbes n'osent pas aller dessus, ils n'y vont pas. » Alors il dit ça, on pourrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi ces choses sont toujours désertées, parce que c'est des substances... détestable.
Et les mouches et les microbes, on leur a pas dit qu'il fallait se débarrasser d'un préjugé ridicule et qu'ils leur coûtaient cher.
Voilà, ils ont pas lu les.
Pas vu les pubs à la télé.
Exactement. Alors, ces margarines sont apparues dans les années 50.
Ça a été matraqué. Moi, je me souviens, j'étais gosse,
fantastique.
On ne pouvait pas ouvrir un journal, on ne pouvait pas allumer la radio sans entendre débarrassez-vous d'un préjugé ridicule et qui vous coûte cher.
Exactement. Exactement.
Et la femme moderne des années 50, si elle était moderne, il fallait qu'elle ait son paquet de margarine dans la cuisine.
Voilà.
Autrement,
voilà.
Si elle continuait à manger du beurre, acheter à la mode chez la crémière,
c'est vraiment
une arriérée.
Voilà. Ouais. Alors que. J'ai retrouvé un traité qui s'appelle Lipid Dysfunction, un livre des années 75, qui a été publié sous les auspices de Unilever, qui est quand même quelque chose de bien gras et bien gros, quoi. C'était hallucinant de voir ce qui est écrit dans ce livre. À cette époque-là, les gens ignoraient. C'est vrai que, en fait, dans l'alimentation, l'approche scientifique est très difficile parce que. Qui nous dit qu'on connaît tous les facteurs contenus dans les aliments? Personne. On en connaît quelques-uns, on en ignore probablement des milliers, et aussi leurs rapports réciproques, comme le calcium et le magnésium, qui sont des rapports qu'on ne peut pas toucher comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, prenez du calcium, ça va vous faire du bien, ça devient déjà de la médecine très difficile. Hein. Ben, ces gens-là, considéraient dans le traité que les oméga-3 polyinsaturés, ça ne servait à rien, donc on pouvait les éliminer de l'alimentation. Le résultat, c'est que pendant des années, les enfants étaient nourris avec des laits de vache non maternisés, extrêmement toxiques parce qu'ils n'avaient pas les oméga 3 qu'on a découvert il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps qu'on sait que le lait de la femme contient ces oméga 3 qui changent tout et qui notamment protègent les intestins de l'agression par les laits de vache homogénéisés et pasteurisés. Parce que le lait de vache, déjà, c'est pas tellement fait pour l'homme. Mais à l'époque, quand le lait de vache n'était pas pasteurisé, il y avait dedans des enzymes et des vitamines, ça limitait les dégâts. Hein, et finalement, les gens consommaient pas mal, même dans des zones où on vit assez vieux. Première chose, la pasteurisation, donc, a commencé par détruire les enzymes. Quand il n'y a plus d'enzymes, le pancréas commence à souffrir beaucoup pour digérer le lait. Et ça a été, je crois que c'est Ziegler dans le Journal of Pediatrics en 90 ou dans le Lancet qui a montré que c'est un facteur pouvant déclencher des diabètes infantiles et des
pertes. C'est tout récent.
Oui, c'est tout récent. Les références que je vous donne, elles sont entre 90 et maintenant. Hein. En médecine, il faut avoir à la fois des références très anciennes parce que souvent elles réapparaissent plus, comme les durées de vie, et puis les dernières références. Hein. On sait très bien, par exemple, que ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'ostéoporose est une fonction inverse de la consommation de lait. Hein? Et ainsi que les maladies cardiovasculaires.
Quand vous dites on le sait très bien, qui le sait très bien? Parce que
les auteurs qui publient, par exemple, le chiffre que je vous cite où il y a dans l'ordre les Finlandais, les Scandinaves, les Serbes, les Français et les Japonais en dernier. Hein, ben le taux des cancers et des machins diminue régulièrement jusqu'aux Japonais et aux femmes japonaises qui ont très très peu et qui, de fractures et qui vivent très âgées, hein, alors que chez les Finlandais il y a 40 fois plus de risques.
Oui, mais
et ça c'est publié dans le peut-être le Journal of Lipid Research.
Voilà, quelque chose donc, de ça c'est pas lu dans les, c'est pas dans les kiosques,
c'est pas dans les gares.
Hein. Or dans les kiosques et dans les gares, en revanche, il y a des journaux féminins ou des journaux de santé, prétendus en santé, qui disent au contraire, pour les femmes qui commencent à avoir les premières manifestations d'ostéosporose, oui. Il faut absolument boire, manger beaucoup de laitage, voilà, manger des yaourts, boire du lait, parce que c'est du calcium, ça renforce les os et autres
balivernes. C'est une niaiserie extraordinaire. Une fois de plus, les animaux les plus puissants ne tirent leur calcium que des végétaux. Le calcium le plus utile, c'est celui qu'il y a dans les noix. Enfin, au sens le plus général, en anglais de notes, hein, les amandes, les choses comme ça, les végétaux très verts, vert foncé.
Les mendiants, quoi.
Voilà. Une fois de plus. Hein, et là, par contre, il faut mettre en garde les gens dans ces suppléments alimentaires qu'on vend. Ou bien, on est en assez bonne santé, on veut se la conserver. À ce moment-là, il faut s'alimenter correctement avec des aliments frais, produits, comme disait mon maître, le professeur Roudin, les aliments produits dans la saison où ils sortent du sol, suivant la saison, suivant les recettes du pays, en privilégiant les plats complets avec des huiles du Nord. Ça c'est capital, avec des fibres, c'est-à-dire des légumes, et puis l'ajouter comme facteur non spécifique, pas de stress et d'exercice physique. Là, avec ça, vous avez, hopefully, assez de vitamines, etc. Vous pouvez ajouter à ça, disons, une petite solution polyvitaminique banale, pas trop dosée. Mais dès qu'on rentre dans le domaine de toutes ces gélules qui abondent dans les officines pharmaceutiques, à partir de là, comment vous allez choisir entre le coenzyme Q10, l'extrait de radis noir, la bourdaine lyophilisée, le patin, le couffin, le machin, il y en a de partout, hein. Et ces substances sont d'une utilisation extrêmement difficile. Ces choses qui sont finalement galvaudées, hein, comme la carnitine, hein, que vous trouvez, oui. Qui n'a aucun intérêt, elle est très chère, elle n'a aucun intérêt tel qu'elle est vendue. Dans la théorie, c'est une substance prestigieuse, hein, là, car on pourrait en dire autant de la dopamine, enfin, de tous ces éléments-là. Donc, il n'y a, quand on s'adresse à la nutrition, le moindre excès devient dangereux. Même boire 6 litres d'eau par jour, au bout d'un mois, vous rentrez dans un état de déficience grave, parce que l'hormone antidiurétique est abîmée. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment, on commence à vivre comme les Américains. C'est-à-dire les Américains, ils vont dans leur magasin de vitamines comme les animaux vont chercher des herbes dans les champs tellement c'est pourri, quoi. Hein. Chez nous, ça devient comme ça seulement. Ça fait dépenser un argent fou et c'est n'importe quoi.
Alors, on a abordé le lait tout à l'heure et on est revenu à autre chose. Je voudrais qu'on revienne sur la question du lait parce que ça, c'est central. Il y a d'abord, vous l'avez dit, on voit dans les supermarchés se développer des linéaires interminables de laitage,
mais c'est incroyable.
Ça devient maintenant de la folie avec des trucs mélangés, des chocolats, des fruits, des confitures, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça est mélangé avec du lait, avec de la crème, avec et généralement des laits lyophilisés, des laits homogénéisés,
exactement,
des laits pasteurisés, donc des laits complètement morts.
C'est des laits morts et ce sont des laits très allergisants parce que le lait homogénéisé, toutes les molécules ont la même taille. Donc, dans les laits anciens, on voyait monter la crème. Hein, comme disaient les Canadiens, s'en faisaient des glaces en la mettant avec du sirop d'érable, etc. Donc, les molécules lourdes s'en allaient. L'organisme absorbait ce qu'il y a dans le lait de léger, en quelque sorte, et les grosses molécules s'en allaient. Maintenant, c'est fini, cette affaire-là. L'homogénéisation du lait fait que la paroi de l'intestin est agressée, que le lait rentre, et pénètre dans l'organisme et va développer des réactions allergiques. Et comme en plus il y a dans le lait, on a découvert des endorphines dans le lait, dans une qui s'appelle, si je me souviens bien, la 7-bêta-isomorphine ou un truc dans ce goût-là, qui vraisemblablement est responsable de l'avance de l'âge de la puberté en Occident, hein, parce qu'elle a une, tout ça, effectivement, c'est extrait de ce que je vous cite pas les pages des articles, mais enfin, c'est extrait de revues du top niveau scientifique. Hein. Là, ça doit être, je pense que ça a été publié dans Pediatrics ou quelque chose comme ça, quoi. Hein. Donc, l'agression que subit, et c'est responsable de saignements, je crois que c'était déjà des
dysménorrhées, alors.
Des dysménorrhées, mais chez l'enfant, ça entraîne des saignements et des pertes occultes de fer. Et je crois que c'est des gens de la Mayo Clinic qui ont noté qu'en supprimant le lait chez les enfants qui avaient des anémies incompréhensibles, et ben, immédiatement, vous voyez les globules rouges remonter. Hein.
Ouais. Donc c'est. Mais alors, comment est-ce qu'il doit bien y avoir une explication, en dehors de l'explication industrielle, au fait que, Parce que on pourrait imaginer des industriels qui lanceraient sur le marché des produits qui sont bons pour la santé.
Oui, et les produits qui sont bons pour la santé, alors là c'est métaphysique, tout ce qui est bon pour la santé rancit à toute vitesse. C'est la loi, c'est shelf life, la vie sur l'étagère. La margarine, ça dure des années, et d'autant plus que même
les... Et alors les laits, c'est pareil, on peut les garder
Vous pouvez les garder extrêmement longtemps.
Alors qu'avant un lait, quand on achetait le lait à la ferme, ça durait quelques jours.
Prenez le cas, par exemple, de l'huile de lin, qui est très chère à mon cœur, parce que c'est les travaux originaux de Roudine. L'huile de lin fabriquée en France, comestible, qui est délicieuse, est vendue dans tous les pays d'Europe, sauf en France, où elle est interdite. Sous prétexte, et c'est une loi qui remonte à la Troisième République, personne ne sait pourquoi c'est comme ça. Par contre, les margarines, dont on sait que ça augmente le taux de mortalité.
Parce que l'huile de lin, il faut dire quand même que quand elle rancit, elle devient toxique.
Elle devient toxique, mais toutes les huiles fraîches, quand elles rancissent, deviennent toxiques. Et l'huile d'olive aussi.
L'huile d'olive rancit, devient toxique.
Bien entendu, et l'huile de noix aussi. Et l'huile de noisette aussi, et l'huile de colza aussi. Seules des graisses saturées restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons qui peuvent s'unir à autre chose. C'est pour ça que les cochons ont été nourris avec du copra et des choses qui saturaient leur graisse et qui transformaient les graisses vitalisantes en graisses mortes. Dans un livre sur ces problèmes-là, un livre anglais des années 90, il est fait état de la disparition des traces des icosapentaénoïques et de cosahexaénoïques, qui sont de grands acides, et de l'acide alpha-linolénique, qui est celui qui est dans l'huile de lin. Il n'y en avait plus dans les cochons d'élevage à partir. Alors ça coïncide très bien avec les dates du professeur Dudley White. C'est exactement.
Ce que je vous propose, il y a des questions, Victoria, ou des...
Il y a des quantités, il y a des commentaires.
Je vous propose de donner la parole aux auditeurs, les commentaires et questions. Vous répondez et puis on reprend après.
Mais c'est tout mélangé. Hein. C'est comme vous aimez. Alors, d'entendre le docteur Plantet, une vieille amie, revenant accablé d'une visite à son cancérologue, se sent ragaillardi. Merci, docteur. Un professeur de médecine que vous avez connu disait souvent « Il vaut mieux avoir du cholestérol dans le sang que dans les parois des artères. » Bien sûr, ce propos est paradoxal, plaisant, et peut-être rend-il compte d'une certaine vérité biologique. Les triglycérides sont-elles dangereuses ou comme le cholestérol ? Vous répondez.
L'excès de triglycérides est certainement beaucoup plus dangereux que l'excès de cholestérol, ça c'est clair comme tout.
En 1956, à Caudry, dans le Nord, les quatre médecins de Caudry avaient noté que pratiquement les gens avaient plus de 4 grammes de cholestérol dans le sang et se portaient très bien. Vous pensez qu'ils supportaient leur cholestérol car ils mangeaient beaucoup de betteraves rouges.
C'est excellent.
Émission passionnante mais très confuse. On ne sait plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Soyez gentil d'aller au bout de vos phrases et de bien indiquer ce que vous dénoncez, ce que vous préconisez. Avez-vous écrit un ouvrage ?
Non.
C'est dommage.
J'ai pas
l'impression. Beaucoup le réclament. Puisque le calcium conduit à l'infarctus, les Chinois qui ne boivent pas de lait sont-ils moins sujets à cette mort par infarctus ?
Apparemment oui, comme les Japonais. D'ailleurs, il faut dire à ce propos qu'on bourre nos contemporains de calcium et que les médicaments qui luttent contre l'inflammation du myocarde sont la plupart des bloqueurs de calcium. Ils empêchent l'action du calcium à l'intérieur des cellules, ce qui est une fois de plus totalement paradoxal.
Mais les médecins persécutent absolument leurs malheureuses clientes pour leur faire boire plus de lait. C'est de votre faute si vous avez de l'ostéoporose. Buvez du lait.
Moi, je n'accuserai pas les médecins parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de passer sa vie dans faire des doctorats et sciences, etc. Les médecins français sont sûrement... probablement les meilleurs médecins de famille du monde, parce qu'il faut voir aussi, moi quand je parle des États-Unis, je parle des professeurs de faculté que j'ai connus, mais il faut voir la base aussi. Et dans les cas de la médecine est excellente dans les cas d'urgence. Quand vous avez un accident urgent, etc., la médecine est très importante parce que là, justement, elle utilise des méthodes naturelles. Dans un accident, qu'est-ce que vous faites? Vous apportez de l'air, vous vérifiez que le cœur bat, vous apportez des aliments par une sonde intraveineuse, vous mettez une position correcte, vous réchauffez l'organisme ou vous le refroidissez. Donc, il s'agit d'une médecine hippocratique. Les victoires de la chirurgie cardiaque, c'est essentiellement dû à la qualité de la réanimation hydroélectrolytique. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a fait beaucoup réfléchir quand j'étais moi-même en chirurgie cardiaque. Donc, on ne peut pas reprocher, qu'est-ce que vous voulez, les médecins, ils travaillent jour et nuit, c'est un métier épuisant. Comment vous voulez qu'ils s'opposent quand ils entendent des autorités venir leur dire le calcium, il faut le faire baisser, etc. Alors, on vous dit d'un côté que la DHEA, c'est la gloire, c'est inventé par personne, la dihydroépiandrostérone, c'est une hormone qu'on peut appeler un peu la mère des hormones, mais DHEA, c'est fait avec du cholestérol. Donc d'un côté, on vous dit, ne prenez pas de cholestérol, et de l'autre, on vous dit, achetez-vous du DHEA. De même qu'on vous dit, mangez du calcium, et en même temps, prenez de la difénidipine qui bloque le calcium, et qui donc protège les vaisseaux. Enfin, c'est complètement incohérent. Alors, si... c'est vrai qu'il est fort difficile de rendre un compte-rendu cohérent de quelque chose qui est incohérent. C'est pour ça que notre propos peut être un petit peu décousu. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on développe un sujet qui est gigantesque. On essaye de faire un panorama général montrant que les maladies de l'Occident sont pas liées aux causes qu'on veut bien nous dire, c'est-à-dire des changements de régime, ce qui est, comme on l'a vu, un argument grotesque, mais des modifications dans notre alimentation qui, elles, expliquent tout. Ce qui est mauvais, en gros, ce qui est mauvais, c'est ce qui est moderne. Rudin, il dit, si vous voulez vivre vieux, vous vivez comme vivaient vos ancêtres. Parce que le problème des aliments, c'est que dans le temps, les gens, ils allaient chercher leur lait tous les matins et ils allaient faire presser l'huile quand ils en avaient besoin. Roudin disait
accessoirement, ils allaient chercher leur lait, ils faisaient 2 kilomètres à pied pour aller chercher le lait et 2 kilomètres à pied pour revenir. Maintenant, ils montent dans la voiture, ils vont acheter la brique de lait mort, et ils rentrent en voiture, ils se collent devant la télé, ils boivent la brique de lait mort. Évidemment, il y a un ensemble de choses qui provoquent.
Quand on regarde les 250 caisses des colossaux supermarchés qui n'existent qu'en France et qu'on voit ce qui sort dans les brouettes, là, dans les caddies, c'est terrifiant.
Il y a une dimension, ou préternaturelle. D'empoisonnement général.
Il est évident qu'il y a quand même une espèce d'empoisonnement général. La montée incroyable des cancers du sein, par exemple, c'est quelque chose qui aussi était. Alors on vous dit, mais les médecins d'avant n'avaient pas diagnostiqué. Rudin répond, it's diagnosis baby stuff. C'est un diagnostic, c'est un truc de bébé, le cancer du sein. Non, c'est pas. C'est lié. Là aussi, on peut avoir des courbes comme cette extraordinaire observation en Norvège. Pendant la guerre, les Allemands ont piqué toute la margarine de Norvège. Pour envoyer sur le front de l'Est.
C'est magnifique, cette histoire.
Et bien, pendant 2 ans, les taux des maladies cardiovasculaires, mentales, les arthrites et machin, et les cancers ont baissé en Norvège d'une façon extraordinaire. Et là les courbes sont présentes parce que c'est très bien tenu dans ces pays nordiques. Et ensuite, quand ils ont pu refaire de la bonne margarine bien grasse, et bien c'est reparti.
C'est reparti,
qu'est-ce qu'on a trouvé comme traitement? Des médicaments qui font baisser le cholestérol et qui ont une efficacité absolument pas prouvée, et des pontages aortocoronariens dont on sait que la majorité se bouche au bout de 3 semaines.
Mais il y a quand même des aspects extrêmement positifs dans la médecine moderne. Je pense à 2 choses dont on nous parle aujourd'hui beaucoup. La médecine génétique. On a des résultats formidables, non? Vous n'avez pas l'air convaincu.
J'entends. Je me souviens, avant même de passer l'externat, et je disais dans une revue médicale qui n'existe plus, médecine praticienne, quelque chose comme ça, pronostic pour dans 20 ans. Donc on était en 63, pronostic c'était 95% des cancers guéris, les maladies génétiques vaincues grâce au clonage, au machin, au truc, etc. Et ceci, c'était un couplet qui revenait tout le temps. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul cas. De temps en temps, il y a une équipe qui prétend avoir réussi à introduire un gène pour modifier. Pour l'instant, le résultat est nul, comme le gain de longévité dans les cancers. Les chiffres que j'avance, c'est pas moi qui étais les mesurer, mais c'est des autorités, parce que c'est très difficile d'avoir la vérité dans les sciences, très difficile. Surtout que très souvent, maintenant, dans les expérimentations, on va pas jusqu'au bout, on fixe des endpoints, les types fixent arbitrairement une limite, comme dans l'expérimentation finlandaise sur la lovastatine, parce que quand vous fixez des limites, vous arrivez toujours à sortir quelque chose du point de vue statistique. En réalité, pour l'instant, la génétique n'a donné aucun résultat. Tout ce qui a donné des résultats, finalement, les grandes découvertes qui sont peut-être les plus puissantes et les plus heureuses, qui sont les médicaments du système nerveux central et de la dépression, qui est une maladie épouvantable, c'est des découvertes liées au hasard. Les tranquillisants, c'est des colorants, découverts chez Roche. Et ainsi de suite, le largactyle, le seul qui a eu un raisonnement logique et intelligent, c'est le professeur Laborit,
qui n'a jamais
été reconnu en France et qui est à l'origine de toute la pharmacologie.
Rappelez quand même l'histoire du bleu de méthylène, parce que c'est...
Le premier médicament d'où vient le largactyle, c'est un antihistaminique qui est le fénergan, la limémazine. Et le fénergan a une structure qui vient du bleu de méthylène. Or, le bleu de méthylène a été fabriqué, synthétisé par Ehrlich, je crois, si je me souviens bien. C'est ça, un Allemand. Et quand il a synthétisé, il a dit, cette molécule, si elle la transforme un peu, elle devrait être utile pour traiter les maladies mentales. C'est-à-dire, c'est extraordinaire.
Donc, il le savait dès le départ.
Il le savait. Il savait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était susceptible. Et il a fallu des années et des années et des années. Cette découverte d'ailleurs a été spoliée parce que d'autres gens se sont attribués l'honneur de la découverte et finalement personne n'a jamais eu le prix Nobel alors que je sais que certains se sont opposés violemment à ce que Laborit ait eu le prix Nobel. Ça change rien, mais enfin c'est quand même pas...
Alors il y a un autre aspect quand même. Bon, vous avez écarté la médecine génétique, mais
dans le résultat.
Par rapport au refus,
quand on voit les malades souffrant de cancer ou de dépression nerveuse grave et etc. On sait tout sur les gènes de la dépression, ça change strictement rien sur le traitement. Il reste aussi difficile.
Il y a quand même un autre aspect, c'est l'aspect de la durée de vie, l'espérance de vie, la longévité, parce que quand on lit un peu les journaux féminins, on voit que les femmes vivaient jusqu'à 38 ans à peu près au 19e siècle, la moyenne d'âge.
J'ai lu un truc génial là-dessus, c'est justement un statisticien qui dit, d'après les statistiques, sous Louis XIV, on mourait à 25 ans et ensuite on se mariait à 34 ans, ce qui est excellent.
Et c'est vrai, en plus.
Oui, c'est vrai. Alors c'est tout truqué, parce que quand vous prenez les chiffres authentiques, c'est-à-dire la survie en ne tenant pas compte de la mortalité infantile. Donc les chiffres étaient signés par Hofer dans un livre que je suis il y a fort longtemps déjà. En 1880, l'espérance de vie, disons, était de 72,3 mois, quoi. Hein. En 1975, elle était de 72,5 mois, ce qui est quand même pas un exploit colossal.
En un siècle, on a gagné deux mois.
Hein. Comme disait l'auteur, il disait, c'est quand même pas avec les Space Age Drugs et toute la médecine, c'est tout ce qu'on fait, on a gagné deux mois. Et dans quelles conditions? Parce que quand même, moi, quand j'étais petit à Alger, j'ai jamais vu des emplacements pour infirmes, comme ils appellent les handicapés. Hein. Ça n'existait pas. Maintenant, on en voit partout, comme aux États-Unis. Pourquoi c'est comme ça? Hein, parce que les gens vieillissent dans des très mauvaises conditions. C'est pas comme les maîtres d'Okinawa qui, à 97 ans, s'entraînent 8 heures par jour. Hein. Si on doit gagner 3 mois au prix de fauteuils roulants, de chaises roulantes et de machins, parce que quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes quand même entouré par ça, tout le temps. Hein. Moi, personnellement, en France, il y en a partout. J'ai jamais vu dans les stations-service de l'autoroute. Je n'ai jamais vu les WC occupés par...
Dieu merci, d'ailleurs.
Dieu merci.
C'est vrai que...
Beslama.
Il y a cette espèce de superstition, de rituel.
Il y a un rituel.
Alors, c'est entretenu, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a un lobby qui fait beaucoup de bruit en disant il faut installer des systèmes d'accès. Je ne suis pas contre le fait de tenir
des
handicapés, mais il faut quand même reconnaître que c'est assez disproportionné à la cause.
C'est disproportionné, c'est obsédant. Et ça nous fait vivre dans un monde de maladifs. Je me souviens de mon enfance en Algérie, les gens avaient une santé exceptionnelle. Enfin, les maladies qu'on soignait, c'était des maladies tout à fait banales. Hein. Les cas de maladies dégénératives, il n'y en avait pas beaucoup. Et on voyait sur les plages, etc., des gens en pleine santé, avec des belles peaux rayonnantes, vous voyez, ces signes extérieurs de santé, etc. Bon, et les produits qu'on avait, ils venaient tous du marché. Mmh. C'est-à-dire que tous les matins, les mères de famille et les maîtresses de maison allaient faire leurs courses, elles faisaient la cuisine, etc.
Mais vous, en tant que médecin,
vous consultez, donc vous avez des gens qui viennent vous consulter, vous voyez, vous, depuis des années, vous voyez des malades se succéder. Premièrement, est-ce que vous avez constaté qu'il y a ou une amélioration ou une aggravation de l'état moyen de la santé?
Oh, il y a une aggravation, c'est indiscutable, et elle est très très difficile, c'est extrêmement difficile quand vous... Quand vous devez tuer un microbe avec des antibiotiques, c'est pas trop difficile. Quand vous devez réparer les conséquences d'années d'erreurs alimentaires ou de médicaments qui ont interféré constamment avec les aliments, prenons les antacides par exemple, les médicaments qui bloquent l'acidité gastrique, qui peuvent être utiles sur un temps bref. Mais l'acidité gastrique, c'est fondamental pour la vie humaine. C'est un facteur de longévité essentiel parce que ça contrôle le passage notamment de la vitamine B12 dans le sang. Donc, vous arrivez... Vous voyez des gens, vous savez plus trop ce qu'il faut faire, parce que déjà c'est une tâche presque surhumaine, si vous voulez. Il faut remplacer l'alimentation, il faut essayer d'être aussi complet que possible, mais si on veut être très complet, on devient, on a une des quantités de substances exagérées. On peut même plus conseiller aux gens de s'alimenter parce que vous êtes pas du tout sûr de la quantité de vitamines, comme l'acide folique par exemple dans les salades, parce que les gens ils font 4 récoltes par an. J'ai soigné un monsieur qui avait 250 hectares de salade. Il m'a dit, je ne mangerai jamais une de mes salades. Je fais 5 récoltes par an, il n'y a rien dedans. Alors, le résultat, c'est qu'on voit de plus en plus ces manifestations qui sont les troubles des ongles, la fatigue, la sensibilité au stress, la variabilité de la tension artérielle, les troubles du sommeil, les ongles rayés, les pellicules, des troubles digestifs pouvant prendre toutes les formes possibles, les douleurs dans le dos aussi qui touchent sur tous les épaules, mais qu'on trouve dans tous les secteurs. Et ça, ça a suivi une courbe vraiment exponentielle.
Ça, c'est les pellagres, non?
C'est des formes. Toutes ces maladies sont des formes mélangées et complexes de micro-carences qui sont souvent localisées. Parce que la médecine telle qu'on la pratique, elle est grossière. Quand on, par exemple, on cherche une hyper ou hypothyroïdie, qui n'existe jamais en tant que telle, En général, la thyroïde, elle est dysthyroïdienne, elle a des mélanges. Et le drame, c'est que vous pouvez avoir une hypothyroïdie qui ne touche que, par exemple, 500 000 neurones dans le cerveau. Ça, c'était évident déjà. On pouvait le savoir sur la base des sciences fondamentales, mais j'ai vu récemment, c'est dans le dernier numéro de l'American Journal of Psychiatry. Quand on injecte en intrathécale, c'est-à-dire directement dans le cerveau, à travers la dure mère, l'hormone hypothalamique qui déclenche la sécrétion des hormones thyroïdiennes, le TRH, on a une sédation de la dépression dans les 5 minutes, voire moins, Et qu'est-ce qu'ils disent, les chercheurs? Ils
donc,
disent,
c'est-à-dire qu'il y a une carence qui est corrigée, et immédiatement... Corrigée le...
parce qu'on a réussi à passer la barrière du cerveau, et que cette carence n'est pas corrigée par l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez beau donner des hormones thyroïdiennes, il n'y a rien qui change. Alors, vous vous rendez compte les problèmes qui sont posés quand vous essayez de réparer les cerveaux et les systèmes nerveux avec en utilisant les substances qui augmentent les forces de guérison.
Mais là, quand même, cet exemple que vous venez de nous citer, c'est quand même une démonstration éblouissante des progrès de la médecine, parce que quand on arrive à faire ça...
Il est évident que moi, j'ai été fasciné par ce qu'on peut faire, surtout, pas partout, mais par l'intelligence des expérimentateurs, parce que même si... Ils ont pas, plus souvent, ils sont pas guidés parce que finalement, on est dans un système non pas de santé mais de maladie. C'est-à-dire qu'on nous apprend pas à maintenir la santé, mais on nous apprend à guérir des maladies dont on ne sait même pas si c'est des entités.
Vous dites d'ailleurs que il n'y a pas une seule faculté de médecine où il y a un cours de bonne santé.
Non. Mais non, dans le temps, il y avait un cours de pathologie générale où on nous fourguait un peu de tout. Ça allait depuis le cancer des poules pondeuses à trois bricoles parce qu'il fallait. Et puis la pathologie générale a disparu complètement. Mais l'idée de connaître comment ça marche, c'est-à-dire comment l'énergie est fournie au cerveau, comment le cerveau envoie ses ordres, quels sont les rapports avec les intestins, etc., ça, personne ne connaît.
Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a pas la moindre idée. Si on demandait à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé.
C'est une définition. J'ai lu énormément de choses là-dessus parce que les anglo-saxons aiment bien réfléchir là-dessus. La question est extrêmement difficile. Finalement, ils disent, est en bonne santé celui qui ne va pas voir un médecin. C'est le seul cut-off point, la seule règle empirique. Ou d'autres disent, un autre disait, la santé, c'est comme le capot des Rolls, c'est fermé, plombé, il ne faut jamais aller regarder dedans. Quand ça ne va pas, on appelle un gars qui arrive, voilà. Mais on n'apprend pas, on est dans un système, de maladie, en fait. Donc la prévention est impossible. Ça veut dire quoi, prévenir? si tout ce qu'on a, c'est des médicaments qui esquintent le cholestérol et qui empêchent vaguement les artères de se contracter, en quoi on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tous les enfants de 12 ans à la lovastatine pendant des années. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et la situation, elle est, en fait, elle est, on peut arriver hein, quand même à soulager, etc. Mais c'est extrêmement difficile, c'est très très dur. Ça nécessite un niveau de connaissance que moi-même j'estime ne pas avoir, quoi, hein, et qu'il faudrait, il faudrait avoir 3 doctorats, etc. Et puis le mieux, c'est que humainement, c'est pas rattrapable si on nous rend pas une alimentation correcte et un air correct et une eau correcte. Il est clair que la tâche médicale devient surhumaine. Hein. On peut arriver, c'est vrai, à faire des jolis coups parce que en particulier les troubles du fer sont gigantesques dans cette époque. Hein. C'est tout le monde le sait dans les revues professionnelles, personne n'en parle jamais. Alors, de temps en temps, parce que vous êtes jamais sûr en plus que l'organisme va accepter qu'on le corrige, de temps en temps vous avez des résultats extraordinaires et puis d'autres fois, c'est l'échec complet parce que c'est difficile et puis qu'on peut pas s'opposer tout le temps à l'ensemble, hein, l'ensemble de la corporation. Quoi, hein.
Alors, on n'a évidemment pas fait le tour de la question, on n'a pas abordé le quart des questions qu'on voulait aborder ce soir, mais vous reviendrez. Bien vous voulez bien revenir, parce que je crois que les auditeurs...
Beaucoup d'auditeurs demandent si on peut vous joindre, si on peut vous consulter.
Je ne voudrais pas, je ne suis pas venu là pour ça.
C'est bien clair, ça a été dit dès le début. Je crois qu'il y a un truc en France qui s'appelle le Minitel, hein.
Ou des annuaires du téléphone, ou même les renseignements téléphoniques.
Je veux être clair, quoi. J'ai fait un exposé aussi honnête que possible sur ce que je connais sur ces choses-là. C'est pas pour dire que je suis capable de traiter n'importe quoi, loin de là. Au contraire, j'estime que c'est extrêmement difficile, hein, que j'ai choisi une voie difficile. Il faut pas que les gens qui nous écoutent changent leur traitement ou leur médecin ou des choses comme ça. Pas du tout. Plutôt leur alimentation.
Oui, mais ils sont inquiets.
Moi aussi, je suis.
Merci François Plantet. Eh bien, à très très bientôt. Vous avez des annonces, je crois.
Alors, le colonel Moinet donnera une conférence demain, jeudi 30 novembre à 18h15 à la faculté d'Assas. Entrée 21 rue du Cherche, midi, thème la situation internationale. Alors, la journée pour le respect de la vie. À 14h, marche pour la vie au départ de la place, le 2 décembre, pardon, à 14h, marche pour la vie au départ de la place Joffre à Paris. 17h, rosaire pour la vie à Notre-Dame de Paris. 21h, nuit de prière à l'église Saint-Sulpice à Paris. Et voilà. Mais par contre, à Corbeil, le rosaire pour la vie a lieu à 16h à Notre-Dame de Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge, au lieu de 17h, parce qu'il ne fait pas beau. Bon. Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre, vente privée de Noël à l'école Saint-Dominique. 18 avenue Charles de Gaulle, au PEC, quartier de l'Ermitage, en face du Quick. Alors, les listes d'ouvrages pour la jeunesse dont on vous a parlé tout à l'heure, vous les trouvez à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e. Téléphone 01 43 25 36 67. Et puis, la sortie du livre de Monsieur Lécuyer, Le Pèlerin de Jérusalem, aux éditions Jean-Claude Lattès, 119 francs.
Alors, je signale aussi, j'ai malheureusement perdu le papier sur lequel j'avais écrit, ça ne surprendra personne, qu'il va y avoir beaucoup de signatures ces temps-ci à Duquesne Diffusion, notamment samedi prochain. Donc, je vous recommande, je sais qu'Alain Pascal, qui est un collaborateur du Libre Journal, va signer ses livres. Il sera d'ailleurs aussi à la vente, à la fameuse journée du livre de Renaissance catholique, le 10 décembre à Versailles, avec beaucoup, beaucoup d'amis. Je crois que j'avais donné la liste, mais je ne sais pas où elle est passée. Enfin, tout le monde, à peu près tous les auteurs que nous recevons à la radio seront là. Et notamment, il y aura Corti, l'auteur du Cheval Rouge, qui sera là. Donc c'est vraiment le jour de venir à cette journée du livre qui va être un véritable événement. Donc ça, c'est à Versailles et au Palais des Congrès de Versailles, pas de la Porte de Versailles, de Versailles. Et je vous demande de téléphoner à la librairie Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, pour savoir quelles sont les signatures qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Il y a beaucoup d'auteurs fort intéressants qui vont s'y succéder. Voilà, je vous remercie d'être resté avec nous. Merci encore François Plantet.
Merci.
À la semaine prochaine pour une émission d'1h30. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie.
la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tvradio.com. Internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 novembre 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 30 novembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance.